problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là, comme tous les soirs. Bonsoir à toutes et à tous. L'after à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission en direct, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, 365 jours par an. Oui, l'after sera là pendant les vacances de Noël. Bonsoir, casting du soir, bonsoir Jonathan McCarthy.
Salut les gars.
Bonsoir Ludovic Obraniak.
Bonsoir à tous.
Grosse soirée, gros programme. Bien sûr, on va prendre le temps avec nos quatre drôles de dames de parler du tirage au sort de l'Euro 2020. On lisait Allemagne-Portugal pour la France, plus un quatrième, elle est terminée avec les barrages. Bon ou mauvais tirage, pose la question. Pas forcément un mauvais tirage.
Ben non, puisque les 4 troisièmes sont qualifiés. Ouais. Donc
Exactement. Pas forcément le groupe de la mort, parce qu'il n'y a pas de groupe de la mort, il y a que des groupes de la vie.
J'ai hâte d'entendre Polo. J'ai hâte d'entendre Polo nous parler de cette Allemagne-là.
La Ligue 1 également, beaucoup de buts ce soir. Nice qui se réveille face à Angers. Montpellier qui grimpe au classement également 4e de Ligue 1. Et Lille, petite victoire et précieuse. Bordeaux crucifié en fin de match à 11 contre 10 Rémois, un but partout, logique
pas. C'est pas immérité pour le Rémois.
C'est pas immérité, justement. Gros programme, bien sûr, ce soir. Mais l'essentiel, pour commencer, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Mais d'abord, Laurent Depré, le rugby top 14, 10e journée, Montpellier face au Loup.
Oui, on joue depuis 18 minutes en deuxième période et je vous avais annoncé un quatrième essai qui a été invalidé après une vidéo demandée très tardivement. 21-3 pour le MHR, 3 essais à 0. Il reste 21 minutes à jouer ici au GGL Stadium.
La musique des 3 points, Jonathan McCarthy, quels sont-ils?
Le premier point, c'est l'OGC Nice, c'est une victoire qui leur fait du bien. Alors, dans le contenu, c'est pas encore tout à fait ça. Mais ils avaient besoin de prendre 3 points et ça va leur donner un petit peu d'air pour continuer à travailler. Le deuxième point, c'est Lyon qui est un petit peu à l'arrache, mais c'est une victoire aussi qui est importante pour Lyon face à Strasbourg. Donc au classement, voilà, et que ça leur permet de pas être totalement détaché. Et même si c'est pas forcément encore parfait, 3 points hyper importants. Et le troisième point, bah c'est on a dit que c'était le groupe de la mort, que ça allait être compliqué au final. Dans un Euro qui va être aussi relevé, avec des équipes qui sont aussi homogènes, avec un niveau aussi homogène, de toute manière, quitte à affronter des équipes, autant prendre des gros d'un coup. Et honnêtement, quitte à en choquer certains, et j'attends Polo avec impatience, je ne pense pas que l'Espagne soit considérée comme une grosse équipe de ce tournoi-là.
Polo sera là à 23h, évidemment, pour de la National Mannschaft. Ludo.
Du répit pour Vira aussi également. On parlait beaucoup de l'importance du milieu de terrain à Nice, ouais. Et voilà, la rentrée de Lusamba.
Exactement.
Et la mise au niveau de Lesmelou a fait que Nice a su remporter, même s'ils ont souffert ce soir.
On dit pas que des conneries, hein.
Ouais. Mon deuxième point concerne Lyon. En attendant mieux, comme tu l'as dit, 13 points sur 18. C'est quand même pas négligeable dans la situation dans laquelle se trouve l'Olympique Lyonnais. Et mon troisième point, c'est le paradoxe bordelais, où finalement, même si ce soir ils se font rejoindre, il existe une bonne santé sportive et à côté de ça, Dieu sait que j'aime le foot, mais ce qui se passe actuellement dans les clubs me répugne au plus haut point et je suis vraiment touché par ça. Parce qu'on est en train de tout perdre et
en train de quoi de tuer les âmes des clubs.
Je sais pas. On est en train d'aspirer les âmes de ces clubs là. On est en train de prendre les gens qui viennent au stade pour des pigeons. On respecte pas le passé, l'histoire et ceux qui ont fait l'histoire. Voilà. Je sais pas dans quelle direction on va, mais en tout cas, elle me plaît pas à moi. Tu penses aux dirigeants, aux propriétaires de clubs comme Lille, comme Bordeaux, comme voilà, on peut les citer quoi, par exemple. Voilà pour vos trois points, messieurs, qu'on va développer bien sûr cette soirée. Appelez-nous, supporters montpelliérains, bordelais, niçois également, lillois au 32-16, le hashtag RMC Live. Et tiens, je vous rappelle ça avant d'accueillir un supporter niçois à Dille. On va commencer par la victoire niçoise face à Angers, 3-1. Nouvelle approche et à cette occasion, RMC vous offre une semaine de vacances dans un des 58 clubs de Bellambra de votre choix.
J'adore Bellambra.
58 destinations. Alors jouez dès maintenant et envoyez RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16. À la fin de l'émission, vous serez avec nous si vous êtes tiré au sort et vous pourrez choisir votre destination. Bonsoir Adil.
Bonsoir l'équipe.
Bienvenue dans l'After.
Merci. Bon alors écoutez, une victoire qui fait du bien. C'était important de remporter ce match parce que ça nous permettait de pas nous enfoncer dans la crise et puis d'essayer d'accrocher la première partie du tableau. C'est une victoire intéressante parce qu'on a pu retrouver par moment dans certaines phases de jeu une certaine fluidité offensive avec quelques combinaisons sympathiques. On a une combinaison notamment très intéressante entre Lucien Beidelberg qui se confirme. Mais malgré tout, ça gomme pas un certain nombre de lacunes individuelles, notamment sur le secteur défensif où parfois on a des trous d'air et puis on se rend compte, comme c'est le cas en première mi-temps, que ce qui faisait notre force l'année dernière, on a un petit peu de mal à le conserver. Donc voilà, globalement, une victoire qui fait du bien, mais encore beaucoup de boulot.
Ludo, vas-y.
Ouais, tu as tout dit. Pour moi, il est important pour cette équipe de se renforcer sur le poste de latéral gauche et de défenseur central. C'est là clairement qu'est le talon d'Achille de l'OGC Nice. Cette année, offensivement, j'ai pas trop de soucis à me faire. Ils recruteront de toute façon un ou deux joueurs offensifs de plus. Et Dolberg, lorsqu'il est accompagné de cette manière-là, lorsque l'OGC Nice, son milieu de terrain, performe de cette manière-là, j'ai pas de soucis à me faire. Je sais que Dolberg mettra sa dizaine, voire plus de buts. Je sais que Ounas fera ses entre 5 et 10 passes décisives. Donc voilà, c'est pas vraiment à ce niveau-là que ça m'inquiète. C'est vraiment, comme tu l'as dit, sur le plan défensif.
Écoute, Adil, je ne sais pas si tu as écouté les semaines précédentes, mais Ludo et moi, on avait dit deux choses. La première, c'est qu'il fallait absolument que Dolberg ait un joueur qui l'accompagne, qui soit un petit peu plus axial. Là, c'était le cas ce soir avec Maolida. C'est un joueur d'axe, Maolida, même s'il était positionné sur le côté, on l'a vu, rentrer en soutien de Dolberg plusieurs fois, et j'ai trouvé que leur complémentarité était assez intéressante. Et la deuxième chose qu'on avait dit, c'était que le problème était au milieu de terrain, et que Lousamba, on comprenait pas pourquoi il jouait. Écoute, là, ce soir, effectivement, il a pas forcément joué au poste auquel j'aimerais le voir jouer, c'est-à-dire un petit peu plus bas, mais force est de constater que son influence dans le jeu, il est impliqué sur tous les buts de Niçois.
Il a été énorme.
Il a été énorme. Sa présence dans l'11 de terrain, dans le 11 de départ, est indiscutable.
Enfin, de la percussion, enfin.
C'est ça.
Quelqu'un qui s'approche.
Il a pris de la densité physique, je trouve. Ouais, dans les duels, il est méchant. Je l'ai trouvé à la récupération, peut-être alors parfois un petit peu naïf dans ses placements, dans les phases de transition défensive, mais je trouve que dans les duels, d'avoir sa densité physique, c'est intéressant. Après, là où je te rejoins, Ludo, c'est que cet hiver, il faut absolument recruter un défenseur central de qualité.
Là, c'est Christophe. 22 buts encaissés déjà.
Dante, c'est plus possible. Mais malgré ça, je ne fais pas extrêmement confiance, mais je pense qu'il faut Christopher Herrel avec un autre défenseur central de qualité. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, je pense qu'à gauche, on peut peut-être laisser encore un petit peu de temps. Un tout petit peu. On voit encore 3-4 matchs et on voit.
Tu l'as vu le premier but, toi ?
Bah oui, mais comme toi, mais c'est un jeune joueur qui a quand même un potentiel.
Dans ce cas-là, tu le fais jouer milieu de terrain parce que.
Peut-être.
Un défenseur qui laisse passer, qui laisse passer un mec dans la surface de réparation à ce niveau-là, t'es sûr que c'est filoche derrière.
Après, Colli, il est peut-être. Mais moi, je comprends pas pourquoi Colli.
Effectivement. C'est pareil.
Et une dernière chose.
C'est pas transcendant.
Il y a quand même quelque chose. On a beaucoup. Moi, le premier, j'ai beaucoup dit du mal de Patrick Vieira ces derniers temps. Je maintiens chaque mot que j'ai pu dire à son sujet sur le fait que ce soit un entraîneur qui soit surcoté, qu'il ait son aura de champion du monde, qu'il fasse que justement on l'encense un petit peu trop. Mais force est de constater que quand il a quand même Atal et Ounas sur ce côté droit, l'équipe, elle est totalement différente.
Adil, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a été dit notamment sur Patrick Vieira, parce qu'on sait qu'il est très critiqué à Nice depuis le début de la saison?
Ouais, effectivement, il est non seulement critiqué par les supporters, mais par aussi une partie de son vestiaire. Je rappelle qu'il y a deux joueurs qui sont écartés, Walter et Tamézé, qui étaient pourtant des hommes forts la saison passée.
Tamézé, il pourrait être hyper important en plus, Tamézé, au milieu de terrain. Vas-y, continue, Adil.
Ouais, je pense que clairement, c'est le joueur qui nous manque dans l'axe défensif au milieu. L'année dernière, quelque part, l'équilibre qu'on avait, c'était aussi un peu grâce à lui. Et les problèmes relationnels de Vieira avec ce joueur impactent de manière significative, je pense, l'équipe. Après, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il nous faut un arrière-gauche. Depuis le départ d'Albert, il y a 3 ans, on n'a jamais eu un arrière-gauche digne de ce nom.
Enzo qui n'y est pas du tout.
Attends, Adil, tu n'aimerais pas essayer Racine Colli et de l'installer sur la durée ? Juste pour voir.
Racine,
soit 4-5 matchs.
Racine Colli, ça fait maintenant.
Eh oui, ça fait un moment qu'il joue.
Il est là.
Eh oui.
C'est un joueur qui, je pense, à ce jour, est celui qui peut apporter le plus au poste d'arrière-gauche, mais ce n'est pas un joueur qui est au niveau des ambitions de l'OGC Nice. C'est un joueur qui manque de rigueur.
Ok,
c'est facile de pointer ça. Après, sur le marché, trouver un arrière-gauche, c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui, hein, quasiment.
Il n'y a pas beaucoup, effectivement. Trouver des très bons latéraux, c'est compliqué aussi, de manière générale. Pas qu'à gauche, à droite également. Bon, Adil, ça respire un peu au classement, effectivement, c'est un peu inquiétant pour Nice. Hein, 15e avant cette journée, 11e, 20 points. Et voilà, Nice va profiter peut-être de cette densité. Ouais. Nice n'est qu'à 4 points à la 3e place.
Au final, ouais.
4 points d'Angers 3e. Il y a du monde entre Angers et Nice,
ouais,
certes.
Non, c'est clair.
Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu espères, toi, après ce tiers du championnat déjà joué par les joueurs, par les équipes ?
On a déjà, sur les prochains matchs à venir, des ambitions de points. On va jouer Saint-Etienne mercredi. On va à Metz. Ensuite, on reçoit des équipes qui sont à notre portée. Je pense que les 4-5 derniers matchs qui arrivent vont conditionner notre mercato et puis surtout le positionnement du board par rapport à Vieira, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'investissement qui a été réalisé sur le club et les ambitions qui sont les nôtres, on peut pas se permettre d'avoir tant sur le plan comptable une position dans la deuxième partie, mais surtout au niveau du contenu du jeu, une faiblesse, parce que bon, aujourd'hui en première mi-temps notamment, c'était vraiment pas terrible, donc il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus.
Ouais. Merci Adil.
Ciao Adil.
Merci à vous.
Excellent soir à toi, bien sûr. On est ensemble jusqu'à minuit. Les drôles d'âmes arrivent, bien sûr. Fred Hermel, Polo Breitner, notre adversaire.
Ouais.
Polo Breitner, adversaire phase de poule de l'Euro 2020.
Qu'est-ce qu'on va lui mettre ?
On aura également Kevin Diaz, mais il ne sera pas avec nous. Mais en tout cas, le Portugal sera à nos côtés. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à la nationale, Mannschaft ?
T'es
sûr de ça ?
Mais bien sûr.
Pas mal de revanches. Hein. On les a beaucoup joués, hein, les Allemands. Hein. Coupe du Monde au Brésil, quart de finale. Demi-finale de l'Euro 2016
de toute manière,
en France.
Fred va nous dire que l'Espagne va gagner forcément l'Euro, non ?
Quoi ?
Fred va nous dire que l'Espagne va forcément gagner l'Euro 5-0.
Non. C'est pas le non.
Je suis content qu'on ait.
Fred, c'est le Real. C'est ça, faut que tu comprennes, en fait.
Non, c'est le Real et les Français qui jouent au Real.
Je suis content qu'on ait pu éviter l'Angleterre, mais finalement, si tu réfléchis bien, si on finit pas en tête de la poule, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va les croiser.
On en parle à 23h bien sûr, mais dans un instant, appelez-nous supporters Montpellier-Rhin pour évoquer la belle victoire Montpellier-Rhin, 4-2 face à Amiens, supporters Lillois aussi, toute petite victoire face à Dijon. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'After est là jusqu'à minuit. After du samedi soir, after de l'élégance. Élégance du col roulé noir de Jonathan Macardy. Élégance de la veste au t-shirt de Ludovic Obraniak, comme je te rattrape.
Et l'élégance de la veste chemise blanche poil apparent de Nicolas Jamain.
Voilà. On poursuit. Je vous rappelle qu'à partir de 23h, gros débrief, tirage au sort de l'Euro 2020. Et bien sûr, avec les 4 drôles de dames pour le prix d'une. Polo Breitner sera avec nous en priorité puisque la France affrontera la National Mannschaft et pas la Mannschaft, hein, ça veut rien dire. La National Mannschaft. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, m'avait dit un jour Polo. Et puis également, on continue le débrief de la soirée de Ligue 1. Après Nice, place à Montpellier. Montpellier, sous les trompes d'eau, s'est imposé à la Mosson, 4-2. Appelez-nous supporters Montpellier 1, le 32, c'est ouvert. Lucien arrive dans un instant. Victoire, 4-2 grâce à Le Talec, Laborde, Delors, Mollet. Quasiment un classique côté Montpellier 1. Montpellier, et ce soir, 4e de Ligue 1, CQFD. Cette Ligue 1 est complètement folle, tu gagnes 2 matchs. Tu t'approches du podium, évidemment. Tiens, Montpellier, justement, on fait une pause. On va au rugby. Laurent Depré, Montpellier loue avant la fin du match.
Un bijou pour aller vers la fin de cette rencontre de la 10e journée. Un bijou d'essai de Van Rensburg, le 4e contre aucun pour le loup. 4e essai. Montpellier, vous l'aurez bien compris, franchement, transmission de balle dans le bon temps, transformation du jeu, participation des trois quarts au jeu des avants au jeu des trois quarts avec notamment ces ballons relevés et l'hybride par excellence, Nadolo, 120 kilos, mais ailier qui fait la passe décisive pour celui qui vient courir à son soutien en position d'ailier, le deuxième ligne Van Rensburg. Bref, si vous aimez le rugby, c'était vraiment presque du All-Star Game, c'était presque les Barbarians, seulement c'est le top 14. Chapeau messieurs, 26-3 et Payog pour la transformation.
C'est un très beau championnat le top 14, on s'est régalé cet après-midi notamment à la Paris Défense Arena avec le magnifique match Racing UBB remporté par l'UBB. Montpellier donc, toujours Montpellier, 4 buts à 2, 4e de Ligue 1 ce soir, après 15 journées avant la fin, avant les 3 matchs de demain. J'accueille Lucien, supporter de Montpellier au 32-16. Bonsoir Lucien, bienvenue dans l'After.
Bonsoir.
Salut Lucien.
Régalade ce soir.
Ah oui, je me suis régalé.
C'était au stade mon pote?
Oui.
Allez.
Pourquoi tu t'es régalé? Raconte-nous, hormis le score, sur la forme également. Le fond.
Alors en première mi-temps, je vous avoue que je me suis un petit peu ennuyé. Mais en début de seconde période, le carton rouge nous a facilité la tâche. Et après, voilà, ça s'est débloqué. Et l'entrée de Mollet aussi nous a fait du bien.
Ouais, Florent Mollet hein, qui est entré, qui a marqué son troisième but cette saison. Toi, tu voulais parler de son remplaçant aujourd'hui, celui qui lui a été préféré.
Non, je trouve que déjà cette équipe déjà, elle a du cœur et du caractère. C'est ce qui nous plaît depuis un moment quand on regarde jouer cette équipe. Rien que les buts, Laborde qui était malchanceux depuis un moment et qui enfin arrive à débloquer son compteur, on est heureux pour lui parce que il ménage pas ses efforts sur le front de l'attaque. Andy Delors pareil qui souvent met des buts à la limite du hors-jeu, il mériterait d'avoir au moins 2 ou 3 buts de plus. Là, il envoie une sacoche de 35 mètres pleine Lulu. Voilà, Mollet qui est sur le banc, qui pourrait peut-être tirer un peu la gueule parce que quand même il a grandement participé au fait que la triplette fonctionne bien. Il rentre, il claque, et puis le taulier quoi, Hilton. Pff, quel plaisir de voir ce mec. Ça me voilà.
42 ans.
Voilà, tu vois, je parlais en préambule du football que j'aime pas. Voilà, ça c'est le football que j'aime. C'est de voir jouer Hilton, de le voir sortir, le sourire, de voir l'impact qu'il a sur cette équipe. D'ailleurs, il sort, il prend un but. C'est pour te résumer la place. Et puis TJ Savanier sur 10 coups francs.
Ça devient vraiment intéressant.
Sur 10 coups francs, il te met 10 galettes. Ouais. C'est dangereux à chaque fois.
Il y a deux choses sur Savanier. La première, c'est que moi, j'attends de le voir associé à Jordan Ferry au milieu de terrain.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas quand est-ce que Jordan Ferry va revenir.
Ouais, Lucien, tu sais ou pas Ferry, non?
Ferry, il est blessé.
Ouais,
mais je sais pas la durée de sa blessure.
C'est un peu long comme blessure, il me semble. Ouais. Mais j'ai hâte de les voir, les deux associés au milieu de terrain. Chapeau à Le Talec pour le match qu'il fait à une position qui n'est pas forcément sa position.
Mais tu pourras pas le sortir, hein, Le Talec.
Il a
pris une telle importance. Non,
Ludo, il joue piston gauche ce match-là.
Ouais, mais c'est pas grave.
Il joue quasiment latéral et je l'ai trouvé énorme. Donc bravo à lui parce que c'est pas son poste. C'est plus un joueur qui est plus dans le cœur du jeu, plus dans l'axe.
Et la troisième. Faut pas oublier. Joris
Chotard. C'est lui, la troisième chose,
c'est que même si en première mi-temps, ça n'a pas forcément porté ses fruits, je trouve que, voilà, Der Zakarian est pas il a apporté cette petite modification dans le système de jeu de son équipe, avec une pointe basse plutôt qu'une pointe haute dans son milieu de terrain. Donc, il y a pas mal de ressources dans cette équipe-là. T'as un groupe qui a beaucoup de qualité et donc, ce match-là confirme une chose, c'est que Montpellier se doit de jouer le top 5 de Ligue 1. Après, de l'autre côté, je vais ajouter que Amiens, il y a deux choses à dire sur Amiens. La première, c'est saluer le fait qu'ils essayent toujours d'attaquer, même si là, pour l'instant, les additions commencent à être un petit peu salées et corsées. Et autre chose,
derrière ils sont grandement handicapés.
C'est là où j'allais revenir et de dire qu'ils avaient quand même beaucoup d'absents, que ce soit derrière ou devant, où leurs deux avançants, Guirassy et Konaté, étaient absents. Donc il y a Godos qui est encore suspendu.
Ah bien, c'est pas Guirassy, 11 buts encaissés sur les 3 dernières journées.
Elsner fait avec des bouts de ficelle en ce moment. T'es amputé en défense, t'es amputé en attaque, t'as ton maître à jouer, ton créateur qui est pas là.
Et cette équipe, elle a pas une grosse marge de manœuvre non plus.
C'est ça, exactement.
Donc, si t'enlèves deux joueurs importants devant, deux joueurs importants derrière, ça dérègle toute la machine.
Il y a peut-être au milieu de terrain où j'ai pas compris ce qu'Elsner a voulu faire. Je pense qu'un joueur comme Alexis Blin doit jouer dans cette équipe-là. Il apporte quand même une patte, une touche technique qui est intéressante. J'aime bien l'association qu'il peut faire avec Niaoré. Et j'ai pas compris, même si Zungu a pas fait forcément un mauvais match, j'ai pas compris pourquoi ce choix-là plutôt qu'Alexis Blin. Mais intéressant quand même.
Dommage pour eux, qui ont joué longtemps à 10 contre 11 Montpellier également.
C'est surtout aussi la bêtise.
d'Otero.
D'Otero qui. Eh ouais.
Ça leur foire le match.
Nouvel essai à Montpellier, justement, puisqu'on parle de Montpellier. Oh, rugby, Montpellier, loup.
Effectivement, et tu sais quoi, tous les marqueurs d'essai sont largement à plus de 105 kilos. C'est incroyable ce soir. Là, c'est Youri Delhommel. Youri Delhommel, c'est la stat du soir. Le talonneur remplaçant qui, après Bismarck Duplessis, ou encore Nadolo, ou encore le capitaine Louis Picamol, eh bien, est allé derrière la ligne. 5 essais à 0, une histoire de 3. 33 à 3, docteur. Wow. Et il reste 3 minutes à jouer. Et
la claque, la première claque du loup cette saison.
Respecte l'homme du match du Mediatico.
C'est vrai.
Tu mets combien là? Tu mesures combien les deux fêtes, toi?
115.
115, t'es à 75 kilos là?
T'es fou, toi. Je suis à 83. 80,
ah, d'accord. 83, là. Très bien. Voilà pour la question silhouette de Ludovic Obraniak. Il faut qu'il va redescendre pour le combat de l'after, on le rappelle. Hein,
et à 80.
Pour le combat, Ludo Bragnac,
on le dit aux gens ou pas? On le dit aux gens, comme j'aime, ça marche pas, on le dit ou pas?
Ah, t'as essayé? Ça marche pas?
De quoi?
Et voilà, comme j'aime pas. Tu sais, cette pub insupportable qui passe en permanence partout. Là. Bref, pas de pub. Lucien est avec nous, revenons à nos moutons, revenons à Montpellier, oui. Surtout messieurs. Moi, j'entends une chose qu'a dit Jonathan. Pour lui, c'est le top 5 Montpellier.
Ah bah oui.
Effectivement, si ça tourne, si Savanier redevient le Savanier qu'on a vu à Nîmes, meilleur passeur de ligue.
Il est déjà là.
Il est en train de revenir. On va voir, il est en train de revenir, messieurs. Le Talek, il confirme. Un gamin comme Chotard, hein, U19, international U19,
bon.
Qui est en train de progresser. Une défense plus que crédible, hein, Mendes, Hilton, Congrès, ça peut tenir.
Ouais.
Et si la Borde retrouve son efficacité, bon, et Delors, par contre, c'est le mec, tu mises sur lui chaque saison, il finit
moi,
toujours à 10,
bien,
15
minutes.
C'est un guerrier.
C'est un guerrier, c'est un patron, il est là, oui. Il va au charbon.
C'est ce qu'on appelle une valeur sûre.
C'est un thème qu'on a souvent évoqué dans l'after. Toi, Lucien, tu attends quoi de Montpellier finalement?
Alors, moi, honnêtement, j'attends que. Il joue l'Europe et qu'on soit qualifié en Europa League. Voilà. Ce que j'aimerais cette saison.
Franchir un palier enfin, quoi, réellement.
Lulu, ça, voilà. Il a raison. C'est ça, il faut que Montpellier soit européen. Parce que on est un 11 de départ de qualité, qui a beaucoup de personnalité, qui a un plan de jeu.
Il y a du banc aussi.
Reconnaît. Et surtout, il y a du banc. Là, tu vois, t'as quand même Jordan Ferry qui est absent. Et t'arrives quand même à être
plusieurs semaines au milieu de terrain. Hein.
Ouais. Donc ils ont fait longtemps sans TJ Savanier en début de saison aussi qui était blessé. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est sur la qualité de Skuletić, c'est ça l'attaquant que vous avez. Si un des deux, Delors ou Laborde se pète.
Là par contre t'es à poil.
Ouais, je pense. C'est au poste d'avant-centre.
T'as Camara qui comme d'habitude pourra dépanner.
Il vaut quoi Skuletić, Lucien?
Le super sub.
Skuletić, t'en penses quoi? Moi on l'a pas assez vu pour en penser grand chose.
Non, tu l'as pas vu jouer Skuletić, c'est d'avoir un avis.
Je demande à Lucien en fait.
Oui mais.
Skuletić,
il sait même pas.
Voilà, tu vois. C'est pour ça en fait que Jonathan.
Skuletić, pour moi, c'est pas un très bon joueur. Et ça peut finir les matchs, mais c'est tout. Ça peut pas être aligné d'entrée.
D'accord. Ok.
Voilà. Merci Lucien, excellente soirée à toi.
Excusez-moi.
Vas-y.
Excusez-moi. J'aimerais revenir sur un truc, c'est sur la butte Payet qui était suspendue.
Oui.
Ah oui.
Ils ont rendu hommage à Ronan Pointo. Qui a été tué au match contre Toulouse et je trouve pas ça normal qu'il soit suspendu alors qu'il est rendu hommage, même si c'était avec des fumigènes. Voilà.
Et mon ami, on vit dans un monde là, c'est
catastrophique pour les supporters.
C'est une catastrophe.
Suspendre une tribune pour des fumigènes, c'est la plus grosse connerie.
Tout marche à l'envers.
C'est mon opinion.
Excellente soirée à toi, Lucien. Tu reviens quand tu viens à l'after, bien sûr.
Allez,
pour Montpellier, quatrième de Ligue 1 ce soir, provisoirement, bien sûr, avant la fin de la 15e journée.
C'est intéressant, Montpellier, quand même. Hein.
Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais moi, j'attends quand même de Montpellier qui franchisse un palier maintenant, tu vois. C'est ça qu'on veut voir. Ça travaille bien.
À l'extérieur, notamment.
Et notamment à l'extérieur.
À l'extérieur, notamment.
Il y a un gap entre la Mosson et les déplacements Montpellier. Lille. La toute petite victoire lilloise, mais la victoire quand même, 1-0. Victor Osimhen, alors sur un pénalty, messieurs.
Ouais.
Généreusement accordé par Jérémy Stida, arbitre, hein, qui pourtant lui a été footballeur professionnel.
Ouais, mais c'est
incompréhensible.
Attends, avant de parler de
un contact dos au but sur la jambe droite d'Osimhen qui le déséquilibre pas vraiment. Bon, en tout cas, voilà, penalty après 3 minutes de VAR.
Et voilà. Très sévère. Avant de parler de ce match, faut quand même souligner que le LOSC, pour son anniversaire, a rendu hommage à Ludo Bragnac.
75 ans.
En faisant un maillot. Avec une bande grenat. Donc, c'est un maillot messin et lillois.
On appelle ça un scapulaire.
Un scapulaire grenat. Donc, c'est un hommage et caché Bordeaux. À Ludo Bragnac.
Bordeaux.
Et le short Bordeaux en plus. Et le short Bordeaux.
Il y a le scapulaire de Gironde.
Je peux te jurer qu'à Lille, en ce moment, il pense à plein de choses sauf à moi. Ça, c'est une certitude.
Alors, non, Ludo, je sais pas si tu veux en parler, mais effectivement, c'était les 75 ans du club. Il y avait beaucoup d'anciens. Pourquoi tu n'y étais pas, toi?
Parce que je suis là déjà. Je suis content d'être avec vous et je travaille. Hein et. Parce que j'avais pas vraiment envie d'y aller, tout simplement. Alors, je dis ça, à la mort dans l'âme parce que j'aurais été heureux de passer du temps avec les supporters et tout. Mais
t'es invité.
J'ai été invité, oui, j'étais invité.
T'avais pas envie, voilà.
Mais voilà.
Je pense que ce qui est intéressant, ce que dit Ludo,
attends, laisse-le parler.
Non, mais.
Mais je vois qu'il honnêtement, je me reconnais pas dans ce LOSC-là, dans la façon dont. Pareil, ça saute moins aux yeux qu'à Bordeaux, mais pareil, tu vois, je me sens plus, je fais plus partie de la famille, quoi, tu vois, j'ai plus cette impression-là. Ouais.
On désincarne un petit peu l'âme du LOSC.
Oui, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai plus l'impression de.
On fera un jour une.
Mais parce que voilà. Ce qui est intéressant,
vraie thématique là-dessus, sur l'évolution, en tout cas, des clubs français,
de manière générale,
la distance que prennent les nouveaux dirigeants avec l'histoire de leur club.
D'une manière générale,
ils ont fait un beau coup de com, ils ont vendu plein de maillots, voilà, bravo.
C'est le but.
Bravo.
Mais d'une manière générale, on peut dire une chose, c'est que les clubs français ne savent pas s'occuper de leur ancien. Par exemple, Ludo nous racontait comment il a été reçu au Maccabi.
À Lyon, c'est très bien.
Quand tu nous racontes comment tu as été reçu en Israël au Maccabi, il y a très peu de clubs français qui savent honorer leurs anciens. Et ça, le problème, c'est pourquoi c'est un problème ? C'est parce que c'est symptomatique du fait qu'en France, on n'a aucune culture foot. On n'est pas un pays de football.
C'est lié à ça.
On n'est pas un pays de football, donc on respecte pas son histoire, on respecte pas les anciens. Ludo a quand même gagné des titres avec le LOSC, c'est pas passé notre pote que voilà. Mais il y a un certain respect qui doit être instauré. Pour moi, des joueurs comme Ludo ou comme
Cinq saisons à Lille, une saison
à Maccabi. Vous devriez avoir tout en Ligue des Champions, avoir votre loge, vos places en loge, etc. assuré. Ça devrait pas se passer comme ça.
C'est pas ça, c'est que le
c'est pas tant l'histoire des loges, hein,
je parle surtout, moi, de mon point de vue, à la limite, je m'en fous. J'ai pas assez d'ego pour revendiquer quoi que ce soit ou pour, je m'en tape royalement. Mais je sais ce que j'ai fait et je sais que les gens me le rendent bien à chaque fois qu'ils me voient. C'est surtout pour les gens qui viennent au stade, pour les supporters, les nouvelles générations.
C'est ça.
Où finalement, quand tu viens, ça se transmet de père en fils, le ticket au stade, je sais. Et finalement, le gamin arrive, il sait pas qui, comment, pourquoi. Tu vois ce que je veux dire, ça me gêne, vraiment ça me gêne. Moi, j'aimais aller au stade, que mon père me dise, bah tiens, lui, dans la tribune, c'était Michel Etor, ancien gardien. Tu vois, il y a tout ça, je retrouve plus tout ça et. J'arrive à supporter, hein, je vis avec, hein, y a pas de
souci. Oui.
Ça m'attriste, vraiment.
Bon, après, et quand les clubs le font, c'est de manière un petit peu artificielle ou forcée, tu vois. On met des photos devant un stade, vite fait, pourquoi pas, mais on fait pas beaucoup plus.
Rendre hommage 75 ans du LOSC, je crois que 2011, on a quand même marqué l'histoire du club, le nombre de mecs qui sont encore en activité ou pas disponibles un samedi soir. Contre Dijon, enfin,
oui, ouais, c'est pas forcément le meilleur calendrier, la meilleure date.
Pourquoi ne pas l'avoir fait en Ligue des Champions, par exemple, quoi.
Romain, supporter lillois, est avec nous justement. Il sort du stade Pierre-Mauroy. Salut Romain.
Salut l'équipe. Salut Ludo.
Romain. Salut Romain.
Bon, ça va Ludo, tu l'as dans ton cœur.
Juste en premier temps, dire bonjour à tout le monde. Ludo, ne dis pas ça. Moi, je suis supporter lillois depuis j'ai 5 ans.
Non mais vous, je vous aime les gars. Hein. C'est.
Laissez Ludo. Parler. Ouais. Chose en tête quand on pense à toi, c'est ton coup franc. Ton coup franc magnifique. J'étais dans la tribune, c'était magnifique. On t'aime encore. Moi, je t'oublierai jamais.
Coupe, hein.
Tu m'as fait rêver, tu me fais encore rêver la nuit. J'y pense encore, j'y rêve encore de ce doublé magnifique. Et t'en faisais partie et tu feras toujours partie de ce club.
Eh ben Romain, j'espère qu'on parlera à tes enfants également de Ludo pour la transmission.
J'espère bien.
Rapidement, on fait une pause. C'est terminé au rugby à Montpellier-Loup, Laurent Depré.
Ouais, coup d'arrêt pour le Loup qui, malgré tout, garde la première place du top 14, quels que soient les résultats demain, avec un petit point d'avance sur le deuxième. Bon coup réalisé par le MHR qui va victorieux 33-8, 5 essais à 1. L'essai lyonnais ayant été marqué, il fait froid, par Xavier Mignot, Montpellier, qui remonte à la troisième place ex aequo.
Merci Laurent, excellente soirée à toi. Hein. Le Loup, leader, 35 points. L'UBB, Bordeaux-Bègle, deuxième, 34 points. Romain, revenons au match, évidemment. On s'en est un peu écarté. Lille s'impose 1-0 face à Dijon. On fait la soirée multiplex, on n'a pas un œil forcément uniquement sur le match à Stade Pierre-Mauroy.
Ça a été dur, apparemment.
C'était compliqué, poussif.
Match très 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 dur. On marque sur, on va dire, un fait de jeu grâce à cette VAR qui est très litigieuse, on va dire, ce pénalty.
Très gentil, hein.
Pardon. Très très gentil, oui, je suis d'accord, hein, je suis Lilo, je suis d'accord. Je l'ai vu. Et allez, les 30 dernières minutes très très dures, franchement on ne joue plus. On voit Sanchez à la 80e qui a des crampes, qui court plus, il connaît, qui ne va plus. Bon, je pense qu'il était touché ou il devait avoir quelque chose. Mais on voit que c'est très 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 dur et je pense que nos deux dirigeants qui sont partis, notre entraîneur de gardien et monsieur Sacramento qui est parti à Tottenham, ça aussi ça peut jouer un peu dans les têtes. C'était wow. Pour moi ça doit jouer un petit peu quand même que et on a toujours ce manque de valise, on peut le voir mercredi en Ligue des Champions, l'action de Pogba et Kone, bah les plusieurs actions même. Et encore ce soir, si on a trois occasions dans le match, c'est bien. Ouais, c'est un peu triste.
Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça, Romain. C'est que je crois que tu sors carbo de cette campagne de Champions League, tant sur le plan physique que mental. Parce que finalement, avoir dépensé autant d'énergie pour ne ramener qu'un point, je peux te dire que dans les têtes, ça fait quand même mal. Parce que même si le LOSC a été surclassé sur le plan des résultats, honnêtement, moi, j'ai rien à dire sur les intentions, sur ce qu'ils ont. À l'Ajax, honnêtement, le premier match, ça se joue à rien. Un peu plus d'efficacité. Mais alors, le haut niveau, c'est les petits détails, donc on va dire que ça fait beaucoup. Mais ils n'étaient pas si loin que tout le monde le pense, honnêtement. Après, ils n'ont pas été ridicules, même si au niveau comptable, c'est pas efficient.
Et excuse-moi.
Ouais, vas-y, Romain, vas-y.
Quand tu gagnes 1-0 à la 60e contre Valence et que t'en prends 4 derrière, excuse-moi, c'est une faute professionnelle. T'as pas le droit.
Ouais, t'as la balle du 2-0 en plus. Hein. T'as la balle du 2-0. Et là, ce soir, bon, t'as beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude de. En tout cas, qui sont en manque de rythme, qui ont été alignés pour faire tourner un peu tout le monde. Et tu le sais,
ça va mieux.
Moi, j'ai vécu cette période-là. Quand tu ne joues pas fréquemment, il est difficile comme ça de jouer une fois tous les 5, 6, 7 matchs. Donc, on va pas en vouloir à Jérémy Pied, à Renato Sanchez. Quoique Sanchez, je trouve qu'il monte quand même.
Je suis d'accord qu'on le voit commence à bouger et tout ça. Jérémy Pied, moi, jamais je lui dirais quelque chose. Quand on voit à la 92e, il restait 3 minutes de temps additionnel, qui va faire un tacle près du point de Toto Corner et qui fait le point enragé. Pour moi, ça, c'est un mec qui donne envie, quoi, qui dit bon, allez, les gants, je bats et. Voilà quoi, ça, y a la rage quoi. Moi ça me fait plaisir ça.
Bon, je sais que ça fait plaisir des mecs qui tiennent aux couleurs et qui te donnent l'impression de, en tout cas qui mouillent le maillot et qui sont investis à fond malgré le fait que bon Jérémy Pied, il est quand même pas, il joue quand même vraiment pas beaucoup cette année. J'aimerais te poser une question Romain.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses? Enfin, moi, ça me trouble un peu tout ça entre Reinildo et Bradaric. Moi, Bradaric, j'aime bien le gamin. Alors, certes, il a peut-être quelques lacunes. Il a moins de volume défensif que Reinildo, mais juste dans les 30 derniers mètres, ce gamin, à chaque fois qu'il était là, comme le LOSC impose souvent son jeu, je trouve qu'il a une qualité de passe que Reinildo n'a clairement pas. Et je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais toi.
Ah, moi, je suis totalement d'accord que pour moi, je préfère Bradaric que Reinildo. Reinildo, ça peut être un bon joueur, mais
à polir.
Voilà, ça sera pas notre titulaire. Pour moi, le petit Bradaric, il manque un peu d'expérience.
Il est pas mal quand même. Hein.
Comme tout le monde a commencé en étant jeune, il va s'acquérir de l'expérience avec les matchs, en jouant, avec Fonte à côté, qu'on voit toujours qui est à côté de lui. Pour moi, je mettrais après, on n'est pas à l'intérieur, au domaine de Lucien, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, je ne sais pas comment les entraînements, on ne peut pas tout savoir. Mais nous, ce qu'on voit, ce qu'on sait en tant que supporter, c'est Bradaric, pour nous, il y a un cran dessus, quoi.
Merci Romain.
Salut Romain.
Merci à vous. L'after, on rappelle que prochain match pour Lille, c'est face à Lyon. À Lyon, ce sera mardi soir à 21h05. Lyon-Lille, le choc de cette 16e journée de Ligue 1. Dans un instant, on parle de Lyon. Lyon qui s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Ça va faire du bien à Rudy Garcia et à l'ensemble de ses joueurs. Et puis également, un petit mot sur Bordeaux. Et bien sûr, à partir de 23h, le tirage au sort de l'Euro 2020. Bon ou mauvais tirage, est-ce que ça vous excite? L'Allemagne, le Portugal, plus un quatrième, un troisième adversaire pour l'équipe de France de Deschamps. Où est passée la chatte à Dédé? Tout le monde la cherche encore, effectivement. Elle est partie, apparemment. A tout de suite pour la fin de l'after, la suite de l'after, pardon, on l'entend jusqu'à minuit.
C'est Roland qui l'avait pour le multiplex.
C'est Roland qui l'a gardé. Mais t'as raison.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. 22h48, vous écoutez RMC. Et vous nous voyez également. Vous voyez ces deux hommes à ma droite, à ma gauche, à la télé sur RMC Sport News. After de l'élégance, les yeux qui brillent pour Ludo. Le regard est vif ce soir pour Jonathan Macardy. Et on va parler de Bordelais qui étaient moins vifs ce soir. Ouais, qui tenaient leur victoire jusqu'au bout du match à Reims. Ils menaient 1-0 les Girondins de Bordeaux grâce à un but de Josh Maja, le Nigérian. Bordeaux à 11 contre 10 Rémois pendant combien de temps?
30 minutes, quelque chose comme ça, quand Jacques-Alexis Romaos fait expulser.
Quand Romaos expulse sur un deuxième carton jaune, je vais regarder. Bordeaux se fait rejoindre à la 93e minute.
Ouais, 72e.
72e, non.
Même pas. 72e, ça 72e fait 18 minutes.
Ouais, 22 minutes. Ouais. Bordeaux aurait pu réaliser une magnifique opération, enchaîner sur une victoire à l'extérieur et prendre la 3e place de Ligue 1. Bordeaux est finalement 5e. Un partout, score final. Bordeaux est un peu à l'image de cette Ligue 1, quelque part. Inconstante. Bordeaux participe au resserrement des lignes alors que Bordeaux avait l'occasion. Jonathan, est-ce que tu vois une évolution dans cette équipe bordelaise, toi?
Une évolution, en fait, collectivement, je trouve que l'équipe a des certitudes qui sont assez marquées maintenant, que ce soit dans le système de jeu, que ce soit dans leur système défensif, qui joue bien à 5, Ludo.
Vas-y.
Il y a des certitudes dans le système de jeu, des certitudes dans la manière dont l'équipe joue. Après voilà, là il te manque des joueurs ce soir. T'as pas un groupe qui est en termes de qualité suffisamment étoffé. Et on doit tirer notre chapeau à Paulo Sousa qui tire la quintessence de ce qu'il peut tirer de son groupe. En fait, il a un groupe de joueurs moyens
limité, voilà, c'est ça.
Et un groupe de joueurs moyens qu'il fait jouer de manière cohérente. Et voilà, donc tu n'es pas à contact ça, tu n'es pas sûr de gagner à chaque fois.
Ce soir, l'équipe, je te donne la parole. Bon, c'est Kossil dans le but qui était très bon d'ailleurs. Pablo Kossil, Michel.
Sur le but, Rémois.
Défense à 3.
Ah, c'est le défenseur.
Benito.
Hein.
Ah non, mais
c'est
le défenseur.
Il est
défenseur. Benito, Tchouaméni, Otavio.
Jamais surprendre.
Kalou, Depréville, Maja, Adli.
Je sais pas qui c'est qui se fait prendre d'ailleurs.
C'est Koscielny.
Non, Koscielny derrière.
Ça m'étonnerait. Hein,
c'est Koscielny. Sur le buteur qui a marqué.
Non, c'est Koscielny qui est trop juste effectivement.
Eh oui, c'est Koscielny.
Ça m'étonne de lui parce qu'il est vraiment mal
parce
positionné.
Parce qu'en fait, vous étiez en plateau avec le producteur du soir Geoffrey qui remplace Arthur. On était un peu hallucinés. On a regardé trois fois pour voir. C'est bien Koscielny.
Koscielny est court, mais pas grand chose quoi.
Déjà, si on parle de cette action, moi j'aimerais parler, tu vois, on parle de Delors, de mecs comme ça qui sont des valeurs sûres. Boulaïdia, on est une cette année. Du côté de Reims, honnêtement, c'est un garçon qui ménage pas ses efforts, qui ne renonce jamais. Et d'ailleurs, comme cette équipe de Reims, hein, qui.
Abdelhamid, très bon encore.
Qui traverse quand même une mauvaise passe, un petit coup de moins bien, disons, après son départ en fanfare. Je trouve que ce joueur me plaît beaucoup.
Ouais.
Pas avoir d'efforts, il est puissant, il est pas maladroit devant le but. C'est une vraie plus-value pour cette équipe de Reims. Après, concernant les Girondins, comme tu l'as dit, je crois que Paulo Sousa, quand je vois la progression d'un garçon comme Tchouaméni au milieu de terrain, d'un garçon comme Otavio, tout est dit. Tchouaméni au début de la saison, mais jamais je mets pas une pièce sur lui. Trop jeune, trop. Et là, tu sens qu'il a pris une dimension. Ouais. Bah alors c'est bien, King Street sera content, ils pourront le vendre 40 millions d'euros dès cet hiver.
Pas quand même, mais.
Mais non, mais forcément qu'on a envie de féliciter Paulo Sousa dans le contexte actuel. Et Dieu sait que des couleuvres, il a dû en avaler depuis le début, et il va encore en avaler sûrement par la suite.
Le problème, c'est que là, quand t'as deux absents, comme ce soir le Coréen dont j'oublie le nom,
Wang et Briand.
Et Briand, c'est plus la même équipe, quoi.
Et Wang, il a pris une place dans cette équipe.
Hyper importante, il est presque indispensable. Voilà donc pour Bordeaux, 5e de Ligue 1, ils auraient pu être 3e. Lyon s'impose donc. 2-1 sur le terrain de Strasbourg. C'était mal embarqué pour les Lyonnais, mené 1-0.
En fait, après un but de. tu te rends compte que dans cette Ligue 1, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont de marge de manœuvre, quoi. Tu vois, c'est dès qu'il te manque un mec, t'es en difficulté, un ou deux mecs, tu sens que les équipes, elles sont tout de suite.
Et c'est là où, en fait, par rapport à ce qu'on disait hier, il faut tirer le chapeau à Villas-Boas, qui a quand même fait avec beaucoup d'absents, et l'absence de du meilleur joueur.
Et pour l'instant, Marseille fait la meilleure opération de cette journée, hein, avec 28 points. Pierre, supporter lyonnais au 32-16, est avec nous. Salut Pierre, bienvenue dans l'after.
Salut Pierre.
Bon, ça a été poussif. Ça a été poussif dans une période un peu trouble pour les Lyonnais. Heureusement, ça gagne et ça se rapproche un petit peu des places honorables.
Pas si poussif que ça.
Ah ouais. Ah, t'en penses quoi?
Ils ont été très malmenés en première période et je trouve que on va se contenter du peu, hein, Pierre. Hein, soyons justes. Hein, je ne vais pas dire que Lyon fait un grand match. C'est pas le cas. Mais pour une fois, ils ont été mangés physiquement en première période. Je les ai vus, mais mal. Je me suis dit, en deuxième, finalement, ils ont su se relever. Ils ont su trouver des solutions. Quand ils commencent à comprendre et à jouer avec un peu plus d'intelligence, avec les qualités des mecs. Voilà, Lyon doit jouer quand il y a Maxwell Cornet, quand il y a Jeffrey Adelaide, quand il y a Terrier. Eh ben, pour les gars, vous avez des turbos, mais prenez la profondeur. Dès qu'ils ont commencé à prendre un peu la profondeur, arrêtez de demander le ballon dans les pieds tout le temps, et tout de suite, ça a créé des espaces, des situations. Donc voilà, on peut au moins...
Lido, t'as tout dit, en fait. Ouais. T'as cité que des joueurs offensifs. Donc moi, on va dire que
la défense, c'est grave, hein,
ils reviennent, ils gagnent. Mentalement, ils ont fait le match, quoi. Ils ont été costauds. Mais franchement, c'est faible, quoi. Tété, qu'est-ce que c'est nul. Koné, c'est ridicule. Ouais. Marcello, il me fait flipper, quoi. C'est affreux.
Une mention pour le petit au milieu.
Cacré.
Attends, voilà. Finis sur la défense. Vas-y, Pierre.
Mais plus tu montes, en fait, et plus... Donc, derrière, c'est catastrophique. À la limite, sauf de Neyer. Au milieu de terrain, Cacré, tout ça, ils ont fait leur match. Et puis c'est devant que ça a bien joué, puisque Adélaïde a marqué un but, Cornet a fait un but, une passe. Dembélé a pesé comme personne n'a pesé sur le match. Et puis Terrier, il a été bon techniquement.
Ouais, mais attends,
Pierre.
Attends, les gars, juste rapidement. Le problème, c'est que défensivement, t'as quand même peu de joueurs.
On va parler du match quand même.
Oui, vite fait, on en parle. Je tiens quand même à parler de Léo Dubois également, hein, sorti sur blessure.
J'ai peur.
Possiblement ligament touché, donc ce serait plusieurs mois évidemment pour lui dans une année internationale avec l'Euro à venir. T'as peu de défenseurs valables, t'as Dubois et Denayer. Le reste pour l'instant c'est vraiment.
Moi je suis pas du tout d'accord avec votre analyse du match. Je trouve que par exemple Jeffrey Adelaide qu'on en a beaucoup parlé en bien récemment. Là il marque certes, mais j'ai trouvé qu'il a beaucoup ralenti le jeu. Sur un côté je l'aime pas du tout et je trouve que d'une manière générale ce qui ne va pas à l'Olympique Lyonnais c'est ce manque de créativité, de fluidité dans les transmissions. Je trouve que l'équipe.
Il a joué dans le milieu.
Excuse-moi, quand il joue comme ça dans l'axe, je l'aime pas du tout. Je préfère quand il joue un petit peu plus sur un côté où il est un petit peu plus spontané. Là, j'ai trouvé un petit peu perdu. Et d'une manière générale, ce que je voulais dire, c'est que les transmissions lyonnaises cet après-midi manquaient cruellement de fluidité. Et en fait, c'est le plan de jeu. J'ai trouvé qu'en deuxième, c'était mieux, mais c'était pas non plus extraordinaire. Alors, Adelaide, je suis content de l'avoir vu tout le match, etc. Mais dans l'axe, c'est pas son poste. Et j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui est un petit peu bon partout. Et il faut absolument qu'un entraîneur le fixe à un poste. Alors, soit un petit peu plus bas sur le terrain, soit sur un côté, mais certainement pas en numéro 10. Après, effectivement, il te manque Memphis Depay et Oussem Aouar, donc peut-être que je bricole comme ça. Mais ce qui me choque le plus depuis que Rudy Garcia a pris cette équipe-là, et même depuis le début de la saison, c'est ce manque flagrant de fluidité dans le jeu, dans les transmissions, alors que tu as des joueurs qui sont censés être techniques et avoir une bonne qualité de passe.
Pierre, reste avec nous. On va marquer une pause. On va revenir dans un instant prolongé sur Lyon et après le tirage au sort. Parce que évidemment, c'est toujours un sujet épidermique, l'OL surtout en ce moment. On revient avec Ludo Aubragnac, Jonathan McCarty et toi, Pierre. Reste avec nous au 32-16. L'after est là jusqu'à minuit. Les cadres de dames arrivent également. À tout de suite.
RMC.
L'after foot.
Je pense qu'aujourd'hui on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Ludovic Aubry. Je veux dire comment ? McCarty. Ah oui, avec son irlandais. McCarty. Comme les Tahitiens.
En fait, c'est pas l'accent irlandais vraiment, c'est que mon grand-père est gitan.
D'accord, ouais. Gypsy. Voilà. D'accord. Et Ludovic Obraniak, pour le coup.
Non, moi tu dis normal, je m'invente pas une vie. Moi, non, c'est bien normal.
Il est bon. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. 32-16 ouvert. Appelez-nous, supporters lyonnais également. Pierre est toujours avec nous. On évoquera dans un instant avec nos 4 drôles de dames le tirage au sort, puisque nos 4 drôles de dames sont qualifiés pour l'Euro 2020. Italie, Allemagne, Espagne et bien sûr Angleterre. On passera un peu plus de temps avec Paulo Breitner, notre adversaire. L'Allemagne, la National Manchester. En phase de poule. Lyon, on poursuit, ouais. Messieurs, victoire, ouais. Lyonnaise de Buzyn, on disait.
Parce qu'il y a deux choses, moi, que je voulais souligner, vraiment, c'est du point de vue
des individualités. Ouais, je te rappelle.
Pierre, je sais pas, alors Pierre, tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais du point de vue des individualités, attention, Jeffrey Nadelaïne, sur ce match-là, moi j'ai trouvé qu'il avait tendance un petit peu à choper la maladie d'un Bertrand Traoré et compagnie, de garder loin, un petit peu trop le ballon. Je sentis quand même qu'il a ralenti pas mal le jeu lyonnais. Et le deuxième point, c'est j'aimerais que. Je comprends pas, alors. Ok, il arrive, Andersen, gros transfert, grosse somme. Il a pas été nickel depuis qu'il est arrivé. Il a même été mauvais. Mais je trouve que c'est un petit peu difficile de le sortir du 11 de départ après le match contre le Zénith où il a joué un poste qui était inhabituel, à savoir axe gauche, avec un partenaire inhabituel, à savoir Marcelo, et face à des attaquants Dibua et Azmoun qui étaient quand même assez fort. Donc le sortir de l'équipe après cette prestation-là, je trouve ça difficile. Et je pense que le salut de la stabilité défensive lyonnaise passera par installer sur le long terme la charnière Donayer Andersen. Pourquoi ? Je prends juste la jurisprudence Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a saccagé l'intégration de Tchelle Tatsar. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de faire la même chose avec Andersen.
Ludo et après Pierre.
Ah, la défense lyonnaise, c'était Black Friday.
C'était. Elle est seule, quoi.
Ah ouais, non mais. La façon de défendre sur le premier but, Youssouf Koné, je te jure,
je reconnais
fois,
pas.
Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais non, mais même il est à la rue.
Il est nul.
Il est à la rue.
Alors je sais pas s'il est nul parce qu'il était pas forcément nul la saison dernière.
Tactiquement, physiquement.
Non, mais cette année,
l'année dernière, physiquement, c'était une machine. C'était une machine. Le mec, il enchaînait.
Apparemment, c'est à cause de la réparation sous Silvigno, selon Rudy Garcia.
Je sais pas, mais en tout cas, oui, tu l'as vu, t'as clairement vu. Alors, je sais pas si c'est la préparation, mais en tout cas, tu t'es fait balayer dans l'impact sur la première période. Aussi beaucoup parce que tu joues constamment latéralement, parce qu'en première mi-temps, tu joues pas sur les qualités des mecs. Les mecs, ils ne font que demander dans les pieds. Quand en deuxième mi-temps, t'as Maxwell Cornet qui commence, il l'avait fait déjà un petit peu, c'est le seul qui le faisait, mais quand le garçon va à 2000 et qu'à chaque fois il fait appel contre appel, on lui met dans la profondeur, ça change tout.
C'est le seul qui a fait les efforts.
Ça change tout. Martin Terrier aussi, beaucoup.
Vas-y Pierre. Il joue une touche de balle.
Mais c'est simple. Pierre, vas-y.
Ouais. Les gars, moi par rapport à Koné, il est nul, mais vraiment, on voit que ça le travaille. Il est dégoûté d'être nul.
Peut-être.
Au moins, l'état d'esprit, il est là. Par contre, moi, je suis pour Andersen, je suis bien content qu'il soit sur le banc. Ça fait déjà, on est bientôt 6 mois dans la saison. Il a pas joué. Moi, personnellement, j'aurais mis Mbiwa derrière avec Denayer. C'est-à-dire, Marcelo, Andersen, vous êtes nuls depuis 6 mois, vous n'avez pas à saisir votre chance. Moi, je donnerais la chance à un quatrième mec. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire un match ne serait-ce que correct, comment vous voulez qu'on avance? Donc, moi, je trouve que tu as raison, Jonathan, par rapport à la fluidité du jeu, mais tout part de derrière. Les joueurs de Lyon, ils jouent latéralement ou en arrière. Tant que tu joues pas vers l'avant, comment tu peux fluidifier?
Il n'y a pas que ça, Pierre. Je pense aussi et je te donne le deuxième. Là, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Et le deuxième élément, à mon sens, c'est que pourquoi Cornet et Terrier brillent dans cette équipe-là? C'est parce que, comme Ludo l'a justement souligné, Cornet, c'est le seul qui fait les efforts dans la profondeur, appel contre appel. Il ménage pas sa peine. Et Terrier, c'est le seul joueur qui joue vraiment à une touche de balle, quoi. Qui la lâche quand il faut la lâcher. Et j'insiste là-dessus. Attention, Jeffrey Nadelaïde, qui est un super joueur. Attention, parce que depuis 2-3 matchs, il a tendance à un petit peu vouloir la garder.
Il a toujours été lent.
Non, il a pas.
Je te parle pas de lenteur, je te parle
depuis 2-3 matchs, il est excellent.
Depuis le match du Zénith,
l'autre fois, parce qu'il le sort.
Le match du Zénith et ce match-là, ça fait 2.
Non, mais le match contre Nice, il nous fait gagner, au bout d'une demi-heure, après le carton rouge. Aujourd'hui, il fait un match correct. C'est sûr qu'il y a un exceptionnel, mais il fait un bon match.
Je trouve agaçant, moi, aujourd'hui.
Franchement, ça va, je te trouve sévère avec
une fixation sur.
Agaçant au regard de son talent et de son potentiel qui est immense. Forcément qu'on le juge d'une manière un petit peu plus sévère parce qu'on sait ce dont il est capable de faire.
Il fait pas.
Ouais, mais je comprends plus les discours parce que la semaine dernière, entre guillemets, on critiquait parce qu'on le laissait pas assez jouer, on le sortait, il faisait pas un match complet.
C'est pas
et
mon
maintenant
cas.
Que tu fais un match complet, il est pas bon, quoi. Donc,
Moi, je te suis là-dessus, Pierre. Moi, je trouve que c'est un garçon qui, qui commence à prendre de l'ampleur, qui et justement je crois qu'on lui a, on lui a coupé l'herbe sous le pied pas mal de fois et je trouve qu'il a été bien gentil. Bon, il faut dire qu'il est jeune aussi, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de joueur ne peut pas prendre, quand tu arrives à l'Olympique Lyonnais, la responsabilité de faire. Enfin, tu vois, il y a des mecs. Sûr. Tu vois, quand l'Olympique Lyonnais est moins bien, c'est normal que lui soit moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Il sera associé forcément à la performance de l'équipe. Mais je trouve qu'il tire son épingle du jeu depuis maintenant 3-4 semaines. C'est vraiment intéressant. Et notamment sur le fait qu'il soit décisif.
Et surtout, moi, il y a un truc que je vois, c'est que c'est le seul joueur. Il a encore une marge de progression, mais je trouve qu'il a du talent. Et à côté de ça, moi, alors vous allez me dire peut-être que c'est on est sévère au bout de 6 mois, mais Koné, nul. Andersen, nul. Jean-Luc, je l'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble, jamais vu jouer.
Jean-Lucas,
je trouve nul. Oui, Jean-Lucas, on l'appelle Jean-Luc.
Ouais, c'est drôle, c'est drôle.
Mais franchement, les 4 recrues, la 5e, la seule qui est, je sens un potentiel, c'est Adelaide, quoi. Tout le reste, Koné, pas de technique. Andersen, vraiment, il fait penser à De Ligt, mais l'arrière de la Juve, là, l'ancien de l'Ajax. Il fait penser à lui physiquement, mais techniquement, il est catastrophique. Et Mendes, ben, je sais pas, c'est Mendes d'il y a 2 ans à Lille, quoi.
Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas concluant pour ces. Pourtant, ici même en août dernier, je me rappelle, on a fait l'after ensemble, messieurs, on disait Lyon a recruté intelligemment. Oui. Les retouches lyonnaises après le départ de Fekir qui manque, on se rend compte réellement là. Tout semblait intéressant sur le papier. Toi, tu parlais de Andersen que t'avais vu jouer à la Samp, je crois, oui. En disant que c'était un bon joueur.
Bah oui.
On parlait Koné, on en parlait Ludo, joueur en progression également. Évidemment, Thiago Mendes, tu disais super pioche.
Jean-Lucas Sampaoli, il est démissionnaire quand on l'a pris.
Tous ces joueurs-là, Jeffrey Adelaide, évidemment bonne pioche. Et au final, t'as raison. Sur les 7 ou 8 joueurs, il y en a un qui réussit pour l'instant.
Le problème, les gars, il est simple, c'est qu'il y a eu une erreur de casting dès le départ au poste d'entraîneur et que ça t'a foiré toute la préparation ou toute l'intégration de joueurs qui sont quand même relativement jeunes. Mais ça veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs et ça veut pas dire qu'ils ne réussiront pas à l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que tous les joueurs qu'on a cités, qui ont été recrutés, ils arriveront à l'Olympique.
On peut les mettre tous dans le sac, hein, parce que c'est pas Silvinho qui a choisi tous les joueurs.
Non, bien sûr que non.
Il y a un staff également.
Je parle d'une erreur de casting d'entraîneur, c'est qu'il ne décide pas pour les joueurs. Attends, par contre.
Lyon-Lille.
L'homme du match, les gars. Ouais. Moi, j'aimerais juste parler de la prestation de Simacan à Strasbourg, qui a été exceptionnel. Ouais, et c'est vraiment un joueur qui est en pleine progression. Comment, Pierre, tu disais?
Moi, je trouve qu'il a été bon, mais enfin, de l'exceptionnel.
J'ai trouvé très, très fort, très, très intelligent dans ses placements. Tout seul, il a mangé les attaquants lyonnais.
C'est pas facile de gagner des 1 contre 1, notamment avec des mecs qui vont. Et lui, franchement. Je serais curieux de voir les statistiques des duels remportés et notamment en 1 contre 1.
Voilà pour Lyon.
C'est dans la durée. Quoi, ouais, bien sûr. Sur un match. Bon.
Ouais, t'as raison.
Non, mais
t'as
je crois que c'est un gamin bon, qui monte.
Un moment, attends, Pierre.
Merci. Il fait un bon match.
Merci, les gars. Pierre. Excellent Lyon-Lille. Hein, prochaine journée, évidemment, en milieu de semaine.
Et puis Cacré aussi, il faut dire un mot. Parce que
Cacré, bien. Intéressant, quoi.
Le gamin, il s'est fait secouer les 15-20 premières minutes. Je me suis dit, ouf, ça va être compliqué pour lui. Il s'est pas démonté. Force de caractère.
Passeur.
Un petit profil à la Maxime Lopez, un peu comme ça. Un petit joueur de ballon, bien technique.
Écoute, un peu de muscu, un peu de protéines, et tu verras que ça sera un super joueur.
Viens faire un stage avec Jonathan McCardy, Maxence Cacré. Excellente soirée à toi, Pierre. Tu reviens quand tu viens à l'after. Voilà, messieurs, nous y sommes. Polo Breitner est avec nous. Le tirage au sort de l'Euro 2020. Bien sûr, Polo. Tu as été tiré au sort.
Peur pas, Polo, tu seras troisième.
Bonsoir, messieurs.
Tu vas passer, Polo, troisième.
Comment être inquiet quand on est français, quand on n'a plus perdu face à l'Allemagne depuis un quart de finale d'une Coupe du Monde en 2014 au Brésil?
Oui, en plus, j'ai adoré quand j'ai entendu Lucas Hernandez faire ses déclarations. Ça aurait été un Allemand qui aurait fait ça. Ça aurait été la grève nationale en France. C'est extraordinaire, en fait. Non, mais c'est super ce tirage, déjà, parce que, après le coup de bambou, en fait, reçu par l'Allemagne, évidemment, lorsque tu prends le champion d'Europe en titre et le champion du monde, ce n'est pas évident. Mais tout de suite, ils se sont dit, mais c'est génial, en fait. Déjà, parce que t'as le président de la fédération qui se dit, la fièvre, elle va être à Munich. Donc, tout le stade sera rempli, etc. T'as Joachim Löw qui dit, évidemment, on n'est pas favori du groupe, mais pour ma jeune génération, c'est génial de voir un groupe comme ça parce qu'on va énormément apprendre. Et si on sort bien du groupe, on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, t'as, comment s'appelle-t-il, Birov, par exemple, qui dit, mais on vit quand même pour vivre des matchs comme ça.
Ouais.
Donc, c'est
tout à fait.
Voilà. Donc, si tu veux, l'histoire du groupe de la mort un peu négatif, etc., il est évacué très rapidement en ce moment.
Salut Polo.
Salut.
J'ai une question tout un peu provoque, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre de manière très objective. Mmh. Est-ce qu'on peut considérer que l'Allemagne, c'est encore une grande sélection de football pour l'Euro 2020?
Bah, le fait même que tu puisses penser une chose comme ça montre que la formation intellectuelle en France est compliquée.
Isolez-moi ça, si vous pouvez le ressortir.
Je suis pas responsable de l'école en France, mais je vais bientôt demander le poste de ministère de l'Éducation nationale.
Appelle le rectorat, très vite. Vas-y.
Et non, mais c'est évident. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de transition avec cette nouvelle génération, qui, encore une fois, je le dis, extrêmement talentueuse, mais extrêmement inconstante. Si on voit par encore les matchs cet après-midi de Bundesliga, on pense à Jonathan Tah qui a été catastrophique avec Leverkusen. Ça devient compliqué de savoir quels sont les joueurs qui vont aller à l'Euro. Donc là, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vraiment de soucis au niveau de la sélection. Le problème, c'est que il y a tellement de médiatisation aujourd'hui au niveau des équipes nationales que c'est compliqué. Dès qu'elles vont un peu moins bien, on a l'impression que c'est plus rien. On a tendance à les mettre tout en haut dès que ça va, tout en bas dès que ça va pas, etc. Moi, je vois que l'Allemagne, en fait, la qualité de l'effectif est là, et donc ça, je me pose pas tellement de questions.
Écoute, je te posais la question parce que je pense que c'est une sélection qui est plus en devenir qu'une sélection du présent. Ma question par rapport à l'Euro 2020, et donc parce que l'Allemagne est dans le groupe de la France, c'est que je pense que c'est une sélection qui arrivera à maturité dans 4-6 ans, dans 2-3 compétitions, et qu'à l'heure actuelle, je les vois très loin des vrais favoris de cet Euro-là. Ouais, après, c'est que mon opinion.
Moi, de loin, je vois pas de nation qui soit au-dessus.
Ils n'ont pas de taulier, Polo. Vous n'avez pas de taulier.
Ils ont Toni Kroos quand même, Toni Kroos, Manuel Neuer, ils ont des joueurs comme ça. Ouais. Donc ça suffit. Il y a Gnabry qui arrête pas de planter en équipe nationale. Là où je te suis, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait l'Euro 2020 va servir d'expérience pour la Coupe du Monde 2022. Je pense pas que ce soit l'Euro 2024, c'est beaucoup trop loin. Mais au dehors des problèmes internes à la sélection, c'est-à-dire les blessés, par exemple Leroy Sané ou Zule, on sait même pas dans quel état ils vont arriver, s'ils y arrivent d'ailleurs. Ouais. On sait pas qui sera dans le 11 titulaire à tous les postes. On sait pas si Gnabry va jouer devant ou sur l'aile. On sait pas de quoi faire de Timo Werner. Au milieu de terrain, Toni Kroos est évidemment titulaire, mais si on le met à côté de Kimmich, Gundogan, on en fait quoi? Marco Reus, est-ce que c'est un vrai leader? Tu vois toutes les questions, mais ça peut se trouver pendant le tournoi, sauf que comme c'est un groupe difficile, ils ont intérêt à le trouver rapidement. Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse du fait qu'en fait, ils vont se servir de l'Euro 2020 pour la Coupe 2022. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une excellente performance. C'est ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2010, hein. Tout le monde l'oublie, mais la sélection championne d'Europe Espoir 2009, avec Özil, Müller et compagnie, en fait, avait été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2010 en étant pas du tout favori, puisqu'il y avait des blessés partout, ils n'étaient pas prévus, les gars. Donc, voilà. Je suis relativement optimiste, j'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est qu'à Munich, il y a 75 000 places et on va s'éclater.
Ça va être magnifique. C'est le premier match à l'Allemagne et la France.
Mais en plus, c'est vachement important.
C'est juin à Munich. C'est à l'Alliance,
oui. C'est très important ce que tu dis, Nico. En plus, c'est le premier match. C'est-à-dire que les Français vont pas se jeter à l'assaut. Les Allemands, on va dire, si on fait un point, ça nous suffit largement pour monter dans le groupe. Et en fait, c'est peut-être plus le Portugal qui a un calendrier plus compliqué, en fait. C'est très classique. Et j'oublie pas que c'est à Munich. Et à Munich, il y a toujours des gros matchs avec l'équipe d'Allemagne. Quand c'est la grande équipe des Pays-Bas, ça se passe là-bas. Quand c'était les Belges, ça se passe là-bas. Les Italiens, ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Munich. Toujours.
Polo, ce qui sera important. Là, on est en train de faire des petits comptes d'apothicaire. J'espère qu'ils vont pas fonctionner comme ça, parce que celui qui finit troisième, il aura bien évidemment une chance de passer. Mais le tirage d'après, enfin le tirage de huitième de finale, tu peux tomber contre les Anglais ou les Croates d'entrée si tu finis.
Quand t'es un Allemand, les Anglais. Si tu veux, tu les amènes au pénalty, c'est réglé. Mais c'est toujours. Non, mais ça c'est pas. En fait, si tu veux, il y a pas de peur. C'est ça, moi, qui me.
D'accord. Comment ils ont répondu? Dis-moi, Polo, comment on a réagi en Allemagne à ce tirage au sort, et notamment la présence de la France dans ce groupe?
Je te dis, bon, évidemment, alors en France, on parle du groupe de la mort, mais en Allemagne, on parle du Hammer Group, c'est-à-dire le groupe du marteau.
Polo, il n'y a pas de peur, parce que t'es quasiment sûr d'être qualifié dans ce groupe. Tu feras partie des meilleurs troisièmes.
Tu perds contre la France et le Portugal, tu gagnes contre la
Hongrie, je ne sais quoi. Tu prends 3 points, tu vas être dans les 4 meilleurs troisièmes.
Bien sûr. Donc il y a pas de crainte à avoir.
Non mais on verra. Mais encore une fois, il y a pas de ils sont conscients qu'ils sont pas les favoris de cette compétition. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. Mais moi, ce que je dis juste, c'est qu'il y a une énorme qualité dans cet effectif, et donc je vois pas ce qu'on pourrait leur reprocher. Évidemment, s'ils se font sortir de ce groupe et qui sont sortis d'un euro qui quelque part se jouera chez eux, ça va mal le faire après la Coupe du Monde 2010. Là, c'est pas possible. Hein. Mmh. Donc là, tu peux être sûr que le sélectionneur saute, que tout là, ça la grande crise. Hein. Mais ils se disent, mais attendez, il y a une opportunité pour sortir. Et si on joue bien contre la France et le Portugal, et si ça se passe bien, qui reste-t-il en face? Les supporters allemands, en fait, évidemment pensent que la Nationalmannschaft est la meilleure d'Europe. Ouais. Mais derrière ça, c'est qui? C'est la Belgique et la France. Voilà, c'est ça.
Les gars,
c'est très groupé, là, c'est très homogène.
Est-ce qu'on peut juste parler
franchement,
et se dire que même si c'est un groupe qui est compliqué parce que le Portugal et l'Allemagne sont des sélections difficiles, mais si la France est au niveau
de cette Coupe du Monde,
au niveau mode commando Didier Deschamps pour une compétition sur un mois, il n'y a pas photo entre la France et l'Allemagne, si. Et il n'y a pas photo de la France et
Portugal. Oui, mais tu mets un si, il faut que Pogba retrouve sa forme.
Pas avec l'équipe de France actuelle.
Voilà. Non, je te parle justement de la France en mode compétition, Deschamps qui verrouille tout, qui fait son groupe, qui met des tartes dans la gueule.
Il faut des joueurs pour ça, il faut des joueurs en forme pour ça.
Je te dis pas que j'aime bien cette équipe de France, je te dis pas que j'aime bien Didier Deschamps, mais je te dis juste que cette équipe de France-là, avec Didier Deschamps sur une compétition de un mois où il va mettre le mode commando, je trouve que en termes de ce que l'Allemagne et le Portugal ont montré, la France est largement au-dessus.
Griezmann n'est plus le même actuellement, Giroud joue plus, Pogba est blessé depuis deux mois, il y a beaucoup de choses. Valentin, Polo, tu restes avec nous parce qu'on va également parler de la journée en Bundesliga. Valentin, supporter d'Angers et de l'équipe de France, est avec nous. Bienvenue dans l'After, Valentin.
Merci, bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Salut Valentin. Bien, tu penses quoi de ce tirage?
Stéphane Moulin, sélectionneur, il veut.
Il t'excite?
Non, Stéphane Moulin, il reste à Angers, pas sélectionneur. Non, il est très bien à Angers, il reste où il est.
Ce tirage t'excite ou il te fait peur?
Il me fait peur parce qu'il y a de belles équipes, mais je suis satisfait. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que quand on a vu la phase de groupe, on a pris des équipes qui étaient techniquement, un petit peu plus faibles que nous, voire même très faibles, beaucoup plus faibles que nous. Et honnêtement, faut dire ce qu'il faut dire, on s'est fait chier. On s'est fait chier à regarder l'équipe de France jouer parce que c'était pas intéressant, parce qu'on avait des blocs fermés et il n'y avait pas d'occasion. Là, on va jouer des équipes qui vont voir, qui ont un niveau identique ou quasi identique aux nôtres. Là, on va voir vraiment ce que vaut l'équipe de France. On va pouvoir voir si l'équipe de France championne du monde, comme certains disent, c'était un miracle. On va voir si c'était un miracle ou pas. On va jouer des bonnes équipes dès le début. Et moi, je préfère ça. Je préfère qu'on ait une phase de poule où tout de suite on rentre dans une compétition où on montre ce qu'on sait faire, où on montre qu'on a le niveau, on montre qu'on a une génération qui est talentueuse parce qu'on a une génération qui peut derrière dominer le football mondial parce qu'on a quand même de très bons jeunes qui peuvent dominer s'ils sont bons au club pendant 7-8 ans parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans l'effectif. Certains, ce sera la dernière compétition. Je pense potentiellement s'il est de retour à Loris, à Mandanda, à Giroud également, sur la dernière compétition, peut-être même aussi à Matuidi, mais on a quand même une génération derrière de joueurs qui arrivent. On n'a pas à se plaindre. On a en France un vivier de jeunes joueurs. On a un très bon vivier de jeunes joueurs. Faut quand même montrer qu'en France, on sait jouer au ballon. J'ai pas envie de voir les mêmes matchs qu'on a vus en phase de qualification, c'est-à-dire les matchs à Montréal, comme les trois premiers matchs en Coupe du Monde.
Valentin, je vais finir. T'as raison à 100%. Sauf que je pense que de jouer contre des équipes qui sont plus fortes, qui vont pas mettre le bus, c'est à l'avantage de l'équipe de France. Considérer le style de jeu qu'a l'équipe de France, qui est une équipe qui est capable d'aller très vite vers l'avant, d'aller très vite en contre, de se projeter très rapidement avec Mbappé, avec Coman et compagnie. Et je pense qu'au contraire, il y a plus de chances de voir des beaux matchs et une bonne équipe de France contre l'Allemagne, contre le Portugal, que contre des équipes un petit peu plus faibles prétendument, mais qui se livreraient un peu moins.
Il a raison.
C'est exactement ce que je dis. Je suis tout à fait d'accord avec
toi. On est d'accord, excuse-moi.
Je préfère prendre, même si c'est un tirage qui, c'est vrai, on parle du groupe de la mort, mais vaut mieux prendre un groupe où c'est relevé dès le début, où dès le début on montre ce que l'on vaut, que qu'on prenne des équipes entre guillemets plus faibles et qu'on s'ennuie au début et qu'on ait du mal à lancer le moteur.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie, les gars.
Car sur une grosse équipe, on ait du mal. Moi, je suis content de tomber sur un groupe comme ça, même si pour l'instant, on ne sait pas encore qui est-ce qui sera le quatrième adversaire, parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire aussi. Les adversaires et le tirage au sort, c'est un gros bordel.
Ce
Il faut dire, c'est le gros bordel, c'est n'importe quoi.
Alors, Valentin, on ne sait pas encore qui est-ce qu'on joue. Voilà, le quatrième adversaire du groupe de la France sera le vainqueur du barrage de la voie A. Si c'est la Hongrie, l'Islande ou la Bulgarie, voilà. ce sera le vainqueur du groupe.
Ah, puis on peut pas jouer la Roumanie, hein, qui doit jouer à Bucarest.
C'est la musique de quoi, ça? X-Files?
X-Files, bien sûr.
C'est Kif Kif Kif.
Au-delà du réel. On aura le vainqueur de la, du barrage. Alors, de la voie D.
Je répète.
Il faut dire
la Liga ou la Hongrie ou de l'autre côté, Géorgie, Biélorussie, Macédoine du Nord ou Kosovo. Ça veut dire que ça, c'est important. Et Polo, il est avec nous aussi. C'est que nous, si on joue la Hongrie, c'est l'Hongrie qui reverse notre chapeau. Ça veut dire qu'on joue trois matchs à l'extérieur. On joue l'Allemagne en Allemagne, la Hongrie deux fois, la Hongrie à Budapest.
On est tous ravis. Bien évidemment, on est tous ravis en tant que supporters, spectateurs, bien évidemment.
Il y a ras-le-bol le Danemark et la Suisse à chaque fois, on s'ennuie.
Après, moi, si je suis Didier Deschamps, on peut constater quand même que sur les dernières compétitions, l'équipe de France a toujours la chance d'avoir un groupe qui lui permet de monter.
Quand tu dis ça, la quoi? La chance.
La chatte.
Non, ouais.
La tocha. Oui,
on va pas le dire. C'est bon, stop. Ça a été trop dit aujourd'hui, on va pas le dire 50 fois non plus, tu vois. La chance de tomber, de tomber sur un groupe qui lui permettait, de monter en puissance. Là, j'ai l'impression. Tu vois, peut-être qu'il va falloir changer. Là, faut être près de
suite. C'est intéressant.
Là, faut être
ce que dit Valentin.
Là, faut être près de suite.
Tout de suite.
Ouais. Donc je sais pas.
La dernière fois que l'équipe de France a été dans un groupe de la mort, c'était en 2008 pour l'Euro. Vous vous souvenez, hein, un Euro qui est passé comme ça.
Parce qu'un Euro c'est long.
Avec la demande en mariage.
Mine de rien.
Italie, Pays-Bas, Roumanie. Résultat, la France fait dernier du groupe C. Un nul de défaite. Voilà, on a.
Parce que ça va être des matchs à grosse intensité, forcément. Ouais. Donc tu vas y laisser peut-être des plumes. Donc la compétition c'est long. Donc tu vois là, ils avaient toujours axé sur le fait en disant voilà. Bon, là, t'avais deux équipes ou une ou deux équipes où t'étais quasiment sûr de battre, même en étant très moyen.
Médiocre.
Ça serait intéressant de voir comment ils vont axer, s'ils vont changer leur préparation. Je suis curieux de voir ça.
Voilà, Valentin.
De toute manière, les gars, Giroud a joué un match titulaire cet après-midi, donc on est sûr au moins là qu'il commence le
premier
match.
On va en parler avec Julien Laurence. Le pauvre, il a joué titulaire enfin, mais il perd. Il marque pas. Merci, Valentin. Excellente soirée à toi.
Merci, messieurs. Bonne soirée.
Salut, Valentin.
Petite dédicace. Vas-y. À mon collègue et ami Marc, qui est supporter de Marseille, qui vient avec moi voir le match à Angers mardi. Donc j'espère juste une chose, c'est que moi j'ai gagné comme ça et pendant une semaine j'entendrai pas parler au boulot.
Angers Marseille évidemment.
Marc, tu passeras plus jamais à l'antenne.
Si, c'est pas toi Jonathan qui décide. Tu n'es que de passage Jonathan ici.
Je rigole, ça va putain.
T'es comme un entraîneur.
On t'embrasse.
Je rappelle les infos également, la France a priori, ça sera confirmé, va s'entraîner, va vivre cet Euro à Clairefontaine, dans son camp de base, bien sûr, avant d'aller jouer à Munich et à Budapest. Que, info importante pour les supporters français, 10 000 places pour les supporters français à Munich, 8 000 à Budapest pour chaque match. Il faut s'inscrire sur le site de la Fédération française du football, puis de football, puis sur le site de l'UEFA à partir du 4 décembre à 14h. On est entré, la Fédé est entrée en négociation avec différentes sélections en vue de l'Euro 2016. Souhait du staff et de Deschamps.
La Belgique.
La Belgique, exactement. Mais la Belgique, a priori, n'est pas très motivée. Martinez n'a pas forcément envie de se préparer.
Je ne sais pas si nous craignons.
Bah, c'est embêtant. C'était le seum avant l'Euro. Ce sera quoi pendant l'Euro? Polo! T'as vu comment on est en France, on est mauvais. Polo Breitner, toujours avec nous pour parler de son championnat, la Bundesliga.
Il est génial.
Quoi?
Il est génial ce championnat. Enfin, cette année, elle est.
Mais oui, mais voilà.
Elle est folle.
Elle est folle parce que le Bayern a perdu, Polo.
Ben oui, le Bayern a perdu. On restait sur des raclées infligées à tout le monde depuis la nomination d'Hansi Flick. Et finalement, le Bayern, avec un seul Français sur le terrain, c'est Pavard sur son côté droit. Hein. Tolisso était encore une fois sur le banc, tout comme Kingsley Coman. Et puis évidemment, Lucas Hernandez est blessé, est en phase de récupération. Ce qui est très intéressant, c'est que ce fut un match, notamment en première mi-temps, extraordinaire, où ça allait d'un but à l'autre.
Contre Leverkusen, je ne l'ai pas dit.
Contre Leverkusen. Leverkusen qui, encore une fois, cette saison, nous fait Leverkusen. C'est-à-dire 0 sur 9 en Ligue des Champions, puis 6 sur 6 depuis les matchs retour. Mais ils vont s'écrouler, à mon avis, lors du dernier match.
Ouais.
Mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, tout est. Si tu veux, le Bayern a fait une très très belle prestation, mais ça ne voulait pas. Trois poteaux. Lewandowski n'a pas marqué. Goretzka est dans une forme internationale, justement, puisqu'on parlait de l'équipe d'Allemagne. Mais si tu veux, il y a des faiblesses. C'est le bloc équipe est beaucoup trop haut. Et là, bah, tu vois, c'était une journée sans pour le Bayern Munich. Et Leverkusen en a profité d'une très très belle façon, puisqu'ils ont ressorti Bailey, qu'on voyait plus depuis quasiment un an, qui nous sort le doublé. Et heureusement, côté Bayern Munich, bah, Thomas Müller, encore une fois titulaire, parce que n'oublions pas, Thiago et Coutinho étaient encore sur le banc.
Et buteur.
Donc, si tu veux, le Bayern aujourd'hui est seulement quatrième. Fribourg jouant demain à domicile, ils peuvent passer devant. On est à 13 journées, on a dépassé le tiers du championnat. Ça devient compliqué pour le Bayern Munich. C'est-à-dire qu'il est évident que là où on s'était habitué depuis une dizaine d'années d'avoir le Bayern avec 10 points d'avance à la trêve, que là, ils seront pas champions d'automne, par exemple.
Oui, mais bon. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour eux? Non.
Ah non, mais moi, non, mais je trouve que c'est très intéressant sur l'analyse à faire, parce que nous, on s'est habitué à voir des Bayern avec période Guardiola ou Henkes qui écrasaient complètement le championnat dès novembre et décembre, et là, on est redevenu dans un Bayern complètement normal.
On en rêve en France, Polo. On en rêve.
Mais là, c'est génial. Parce qu'en plus, mais c'est la même chose avec le Borussia Dortmund.
Voilà, justement,
il y a Lucien Favre. Match, les 30 premières minutes du Borussia ont été, pareil, d'un très très haut niveau, il mène 2-0, on se dit très bien, Lucien Favre, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe sur une action anodine? Et ben, il y a un tir contré, ça fait 2-1 pour le Borussia Dortmund. Et Mats Hummels, le champion du monde, les joueurs expérimentés qui trouvent le moyen de se faire expulser juste avant la fin de la première mi-temps. Et Dortmund souffre toute la deuxième mi-temps, mais ça passe pas du côté du Hertha. Donc, il y avait d'ailleurs avec sa première avec Jürgen Klinsmann d'ailleurs, qui revenait sur un banc en Bundesliga. Et donc, finalement, le Borussia Dortmund se sort avec un œil au beurre noir, mais a gagné les 3 points et donc se relance un petit peu. Et donc, c'est génial. Demain, Mönchengladbach joue pour reprendre la tête du championnat. Vous avez Leipzig qui l'a emporté logiquement à Paderborn, même s'ils ont un peu tremblé parce qu'ils menaient 3-0 très rapidement. Donc tout ça a fait que c'est un peu compliqué à suivre parce qu'il y a des contre-performances un peu partout. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis incapable de dire aujourd'hui qui sera le champion à la fin de l'année. Ça. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Leipzig au passage. Hein,
intéressant. Ah, oui. Leipzig pour être champion d'Allemagne. Depuis quand c'est pas arrivé ça?
Ah bah, c'est jamais arrivé. Il faut remonter. Non, mais de ce club-là, c'est pas arrivé. Mais sinon, il faut remonter à
l'ancien Leipzig.
Pas de. Oui, il faut loco Leipzig. Là, c'est dans la RDA. Sinon, en 1903, si je raconte pas de le FB Leipzig, si je raconte pas.
Incroyable. Merci Polo, c'était extrêmement complet.
Merci Polo.
Excellente soirée à toi. Ciao, ciao. Fred Hermel arrive avec son groupe. Oh, c'est pas groupe de la mort. Hein. Espagne, Ludo. Pologne, non. Suède et un vainqueur du barrage B. On aura également Simone Rovera, bien sûr, et Julien Laurence qui s'en sort. Pas trop mal dans son groupe aussi, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamin.
Avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan McCarty à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport News, bien sûr. On déroule le fil du tirage au sort. Nos drôles dames sont là. Après Paulo Breitner et l'Allemagne, voici Simone Rovera et l'Italie. Bienvenue sur la grande scène européenne, Simone Rovera.
Ciao, buonasera.
Bravo,
bon
Simone. Je suis tellement heureux.
Là.
On est tellement heureux que tu travailles enfin un été. Bravo,
Simone. On va être tranquille avec lui, calme. Il est à l'hôtel, là. On va pas faire 10 minutes avec lui. D'accord. Mais... il est fatigué, Simone. Il a travaillé.
Mais alors, s'en fout?
Non.
Bah écoutez, j'ai regardé un Genoa Torino qui c'était pas la meilleure de spectacle.
Il m'étonne. Bon, Simone, l'Italie, groupe A.
Bah, les groupes de la mort.
Ça y est, c'est parti. La Suisse, la Turquie, le Pays de Galles.
Ben la Suisse, tu peux mourir d'ennui. La Turquie, bon, on fait pas des blagues sur ça.
Le Pays de Galles, vas-y.
Le Pays de Galles.
Gareth Bale, c'est génial. Tu vas te marrer, Gareth Bale.
Il y a Gareth Bale et Ramsey.
Gareth Bale, c'est un revenant en football. Donc voilà, c'est.
Bon, tes favoris, hein, Simone.
Merci, ça fait plaisir.
Non, mais c'est la réalité. Vous cachez pas.
Les médias italiens aujourd'hui, après le tirage, c'était plutôt bon tirage. Ça passe pas, ça pouvait aller pire. Déjà ce soir, ils se sont rendus compte qu'il était un peu trop généreux. Ils disaient, oui, mais c'est quand même compliqué. Bah, écoute,
quand même compliqué de tout, sans déconner.
Non, mais bon, Roberto Mancini l'a dit très clairement, on n'a pas pris la France. Donc c'est déjà très bien. C'était la vraie peur de ce tirage, d'être tombé dans les groupes des champions du monde. C'est un groupe que oblige l'Italie, pour moi, et on dira ça sûrement d'ici au début de l'Euro, à terminer première et gagner ses matchs, peut-être tous, peut-être 2 sur 3, mais l'Italie est obligée de faire un très beau parcours en sachant qu'elle joue les 3 matchs à domicile. Les ingrédients, ils sont bons pour l'Italie. Les tirages sont plutôt simples. L'équipe a les temps aussi de se mettre en route dans une Euro où on arrive avec une équipe qui sera très jeune. Tout se passe très bien. On pouvait vraiment craindre pire. Et donc, maintenant, à l'Italie de montrer d'avoir les niveaux pour revenir en force sur la scène européenne.
Est-ce que tu vas jouer à domicile? Tu vas jouer à Rome?
Les 3 matchs de poule, oui. Donc, c'est pas mal. J'espère dépasser une dizaine de jours à Rome. Il fait beau, on mange bien. Si RMC décide qu'il faut que, je sais pas, Jonathan vient avec moi.
Avec ou plaisir, mon pote.
Ou toi, Nico.
Ah oui, moi je viens.
Des belles soirées.
Ah oui, avec plaisir, mon pote.
Ça.
On va t'envoyer à Bakou, tu vas voir.
Je suis gentil.
Bah, t'es un amour, Simone. Après tout ce qu'on en sait.
Voilà pour la Squadra Azzurra qui, on le rappelle, a survolé son groupe invaincu en qualification. Et la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Vous commencez par qui, Simone? J'ai pas noté.
Par la Turquie.
Par la Turquie, très bien. C'est peut-être un peu la grosse affiche d'ailleurs de ce groupe.
C'est l'Italie qui entame...
Au match d'ouverture, ouais, Italie-Turquie, voilà. Exactement.
Voilà, voilà. À on Rome. Avait déjà joué un match en 2000 face à la Turquie, notre premier match à l'Euro, et c'était un Euro au final qui s'était pas si mauvais. On a perdu en finale, tout le monde se souvient, on avait gagné avec deux buts d'Antonio Conte et de Filippo Inzaghi. C'était une autre époque.
La Serie A rapidement, Simone, Franck Ribéry s'est blessé aujourd'hui avec la Fiorentina. Ouais.
Franck Ribéry est sorti à la fin de la première mi-temps, puis il a eu un gros choc à la fin, sur la dernière minute de la première mi-temps, et on craint une entorse, on verra dans les prochains jours s'il y aura des dégâts un peu plus graves, s'il arrivera à rejouer en 2019. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, quand même, la priorité pour la Fiorentina, la priorité des inquiétudes, c'est l'avenir de Montella. Cette défaite mise vraiment sur la sellette.
À domicile, 1-0 face à Lecce, quoi. 17e du Serie A.
De la fin du match, il y avait déjà les sites spécialisés en mercato qui parlaient d'une possible départ de Montella dans les prochains jours, avec Gennaro Gattuso qui serait une des favoris pour prendre sa place sur les bancs des touches. Donc, on verra. Autre entraîneur qui passe une mauvaise soirée, c'est Thiago Motta, battu à domicile par Torino sur un match un peu étrange, c'est-à-dire Genoa fait son match comme d'habitude, 60% et plus de possession, un peu stérile, quelques occasions, un poteau, une barre transversale, et Torino sur la seule occasion de la deuxième étape, en corner, marque le but de 1-0. Donc voilà, c'était un peu difficile pour l'ancienne parisienne qui, je vous dévoile un petit secret, à la fin du match, il a croisé Sirigu dans les vestiaires. Ouais. Et Sirigu lui a dit, continue comme ça, ton Genoa joue bien, continue, parce que c'est même si tu as perdu, on voit que ton Genoa joue bien. Donc c'était une belle retrouvaille entre les deux anciens parisiennes.
Simone, est-ce que le président de Naples a perdu la tête?
Non mais la situation est un peu compliquée à Naples, en sachant qu'aujourd'hui il y a eu une prise de position de Sindaca Mondial des joueurs, en disant que les sanctions sont irrégulières et que le club ne peut pas décider les mises au vert obligatoires et sanctionner les joueurs qui n'acceptent pas ça. Donc on peut dire que oui, c'est très compliqué.
C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu, et que les présidents, selon certaines infos qui sont sorties, a fait comprendre aux joueurs que, bon, au final, ils auront l'amende, mais avec les prix déjà établis de la Ligue des Champions pour le passage en huitième des finales, s'ils se qualifient, au final, ils perdront rien. Donc,
et bon, moi, j'aime bien, ils s'en foutent, mec, ils s'en foutent, c'est le patron.
Incroyable ça.
Ils s'en foutent. Merci Simone.
Ciao Simone.
Même pas un mot sur Cristiano.
Salut Simone.
Vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est pas l'actualité Cristiano, on l'a oublié en Italie.
Voilà, exactement. Bonne nuit, Simone.
On ciao. On vient avec toi, Rome, nous.
Ah ouais, mais 3 jours,
bien sûr.
Petit week-end à Rome. Partir en Italie. Tu connais cette chanson?
Exactement.
Voilà. Minicube, exactement. Merci Toto. Lilicube en régie. Voilà. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Salut, Julien.
Il s'en sort bien, Julien Laurence. Croatie, République tchèque et le vainqueur du barrage C, de la voie C. Qui peut être, logiquement,
La Serbie,
ouais. Si la Serbie, c'est quand même, ça devient un groupe différent quand même. Ouais.
L'Écosse, ce serait sympa parce que ce serait un derby. Oui. Un derby, il y a beaucoup d'animosité entre Écossais et Anglais, en espérant que ça se passe bien en dehors du stade et dans le stade entre supporters. Mais surtout, ça apporte un peu de piment dans le groupe. On se rappelle du but fabuleux de Gascoigne contre l'Écosse à l'Euro 96, par exemple, avec le sombrero pied gauche et la reprise de volet pied droit.
Donc,
les Anglais ont des bons souvenirs. Après, la Croatie, c'est une équipe qu'ils connaissent bien, puisque c'est bien sûr l'équipe qui les a battus en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Après, les Anglais les ont battus lors de la Ligue des Nations, notamment 2-1 à Wembley. Et puis la République tchèque, ils les ont eu dans leur groupe de qualification pour cet Euro, justement. Ils avaient gagné largement à Wembley. Ils s'étaient inclinés en République tchèque, un match où ils avaient vraiment été absents et qui avait montré aussi dans un sens leurs limites un petit peu, et les limites tactiques de Southgate. Donc c'est peut-être bien dans un sens qu'ils retrouvent les Tchèques parce qu'ils auront sûrement appris de cette défaite-là. Donc ils étaient forcément très satisfaits du groupe, même si ils ont très vite souligné que le premier du groupe de l'Angleterre affrontera le deuxième du groupe de la France et de l'Allemagne. Donc tu pourrais facilement avoir un Angleterre-France ou un Angleterre-Allemagne ou un Angleterre-Portugal, effectivement, dès les huitièmes de finale à Dublin.
Et ce serait incroyable.
À la Viva Stadium, ouais.
à l'Aviva Stadium.
Tout à fait.
Et Julien, t'as vu un peu possible le barrage groupe B, possible Irlande du Nord, Irlande.
Ouais, ce serait incroyable. Non, tous les deux qui gagnent effectivement.
Moi, j'y vais. Je veux le voir ce match.
Ouais.
Après, ce serait incroyable, ouais. Et les deux Irlandes, dans un contexte brexitien en plus.
Exactement.
Avec tout ce que ça représente, s'affrontent, ce serait effectivement.
Et t'imagines si l'Irlande du Nord se qualifie, ça veut dire que l'Irlande du Nord jouerait plusieurs matchs à la Viva Stadium.
Ouais, exactement.
C'est un petit peu tendu, exactement. Pour le coup.
Voilà donc pour le tirage au sort, l'Angleterre, Croatie, République tchèque, et on verra en mars prochain pour le vainqueur des barrages de la voie C. La Première Ligue, beaucoup de choses encore à raconter aujourd'hui. Confirmation que City, Manchester City coince. Deux partout face à Newcastle. J'en regardais là, c'est une victoire seulement sur les cinq derniers matchs de City. Toute compétition confirmée.
Julien, on y est, c'est bon.
Ça y est.
On l'avait déjà dit la semaine dernière.
11 points d'avance pour Liverpool qui s'impose.
C'est bon, Jules.
2-0, 2-1 aujourd'hui face à Brighton. Ça y est, on avance là vers le titre.
C'est bon.
Ouais, ben oui.
Ah, ça y est, ouais, effectivement.
Ça va être historique.
On va garder ça, on va isoler ça et puis on ressortira ça en 3 mois, les gars. Vas-y.
Non, mais c'est vrai, 9 points déjà, on était sceptiques. On était très sceptiques en disant est-ce que City peut vraiment revenir. L'année dernière, ils étaient revenus de 7 points au mois de janvier, mais ils avaient eu cette victoire en janvier, justement, début janvier, le 3 janvier, qui leur avait permis déjà de réduire l'écart de 7 à 4 points. Et après, ils avaient effectivement remonté ces 4 points pour finalement prendre, reprendre 5 points d'avance sur Liverpool au total, donc gagner avec un point d'avance à la fin de la saison. Là, 11 points, pour moi, c'est terminé, même si Liverpool va avoir effectivement énormément de matchs d'affilée, là, c'est avec le championnat du monde des clubs notamment. Je pense que 11 points, c'est incroyable. Alors, à moins que Leicester arrive à faire une saison incroyable et deviennent le concurrent principal de Liverpool. Je vois pas comment ce titre peut échapper maintenant à Liverpool, qui a gagné 2-1 contre Brighton sans briller encore une fois, en perdant Alisson expulsé, en tremblant un peu même à la fin du match. 2 buts de Van Dijk sur coup de pied arrêté d'Alexander Arnold. C'est encore une fois pas très convaincant, mais ça gagne encore. Et pour Manchester City, si tu regardes les expected goals, donc la probabilité qu'ils marquent sur les occasions qu'ils ont eues, pour Manchester City c'était 3, pour Newcastle c'était 0,2. Newcastle arrive à marquer 2 buts, tu te demandes même comment, et City rate énormément d'occasions et finit par marquer simplement 2 buts et tu perds encore 2 points. C'est assez incroyable.
Et Liverpool, les gars, c'est 31e match sans défaite en championnat. Record du club, 87-88. Égalé.
Ouais, mais il n'y a pas de secret. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah, tu peux travailler dans la continuité, ouais, sans faire n'importe quoi, en recrutant pas à tout va, en construisant une équipe avec un coach qui est façonné pour cette équipe-là.
Tu peux avoir une usure,
tu donnes les moyens de
jouer. Oui, c'est Nam, tu vois.
Sûrement un cycle de 3 ans. Tu vois, mais il faut le laisser, le cycle de 3 ans. Tu vois, il faut que les mecs puissent avoir l'opportunité de jouer ensemble au moins un peu plus que 6 mois.
Merci Julien.
Ciao, ciao.
Merci,
Julien.
Excellente soirée à toi. À très vite dans l'after, bien sûr. On finit par Fred Hermel. Dans un instant, il est avec nous pour parler de son groupe, le groupe de l'Espagne, le groupe
de
Bah oui, Irlande, forcément, on va les taper.
À tout, Fred, il est là dans le sas de l'after avec Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan McCarty et avec Frédéric Hermel. Car oui, il s'appelle Frédéric. Salut Fred.
C'est quand ma mère. Quand ma mère est pas contente après moi.
Ah ouais, t'as raison, moi c'est pareil, Nico et Nicolas, c'est pareil.
Tu vois, quand c'est mon chéri, mon grand, Fred, c'est bien.
Frédéric, viens ici. Arrête, Frédéric.
Quand c'est Frédéric le Gustave Hermel, ça va pas du tout.
J'aurais dû m'appeler Gustave. Grand prénom français, Gustave.
C'est très beau. C'était mon grand-père maternel.
Mais
en 1905.
Mais t'as pas diminutif pour Gustave.
Gus?
Ouais, Gus, c'est pas terrible quand même. Ah, ça va. Là, Gus. Non, c'est pas terrible.
Pas mal.
C'est très beau, Gustave.
Espagne,
très beau, Gustavo.
Espagne, Pologne, Suède et vainqueur du barrage de la voie B, Fred Hermel.
Bah, franchement, c'est plutôt un bon tirage pour l'Espagne.
Eh ben enfin, oui.
En tout cas, c'est vécu comme ça. Parce que, bien entendu, l'Espagne n'est pas tombée dans ce qu'on appelle ici le Grupo de la Muerte, qui est bien sûr le groupe de l'équipe de France. Hein, ça,
comment tu dis le jackpot, messieurs dames, en espagnol?
Gilberto Brisbois.
Bon, oui, non, forcément, oui, vous aurez pu prendre la France, évidemment, l'épouvantail du chapeau 2.
Il y aura quand même, vous allez quand même sûrement vous prendre l'Irlande, et attention, on va vous désosser.
Ouais, mais enfin, par rapport au groupe de la France, c'est un. Voilà.
Pologne va finir première du groupe, normalement.
Lewandowski, voilà, Lewandowski.
La Pologne va finir première.
Meilleur attaquant du monde actuellement.
Non.
J'en étais sûr.
Non, le meilleur buteur.
Le meilleur attaquant, c'est Karim Benzema. Ouais. Et la première fois, c'est d'accord avec le meilleur attaquant au monde, c'est Karim Benzema.
On peut même dire le meilleur joueur. Hein.
du monde actuellement.
Moi, ça me pose pas de problème de dire ça.
Il y a des Benzema.
En ce moment,
ouais, top 3, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs.
Parce qu'il est mieux que Messi, il est mieux que Ronaldo.
En ce moment, oui.
T'as des Sadio Mané, t'as des.
Dans les
joueurs offensifs.
Il est dans le top 3, je pense.
Top 3, top 3 mondial.
Ça fait des mois que. Qu'il a un niveau exceptionnel. Même aujourd'hui, on parlera
de la victoire du Real.
Il a pas marqué, il a pas fait un grand match, mais tout ce qu'il a fait, c'était intelligent, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours utile.
Fred, revenons alors.
Pour l'Espagne, alors
on parle, bien entendu, ici, on regarde, on se dit, bon, la Suède, voilà, c'est toujours un rival compliqué, etc.
Oui, mais bon,
la Pologne, c'est vraiment Lewandowski, vraiment, parce qu'ici, c'est un joueur qui a quand même été très proche du Real à un certain moment. Donc, c'est vraiment un buteur dont on a toujours beaucoup parlé. Bon, et puis après, le tirage au sort.
Ça sera l'Irlande à San Mamés pour le troisième match.
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Ouais, moi, j'y crois. Hein.
Pourquoi
mais
pas.
Vous savez que c'est quand même. Je fais un petit aparté, mais vous savez que j'aime bien, moi, raconter. Raconter mes petites choses là d'Espagne, c'est un événement colossal que la sélection espagnole joue à Bilbao.
Ouais, bah oui.
Ah oui.
Moi, tu nous racontes pour comment ça se fait, c'est parce que symboliquement c'est très
fort. Ouais, rappelle-nous le choix de Bilbao.
Non, mais ça, mais tout simplement parce que Bilbao a fait un nouveau stade il y a 3-4 ans qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc il y a eu une candidature décidée au niveau régional et national, au niveau de la ville, au niveau de l'Athletic Club, mais c'est un événement colossal parce que bon, on connaît toute l'histoire du nationalisme basque.
Bien sûr, oui.
Voilà, il y a quand même un groupe terroriste qui a tué pendant 40 ans, hein, le TEA, donc c'est pas anodin, et que la sélection espagnole puisse revenir au Pays Basque, c'est un événement colossal.
Mais
vraiment,
c'est apprécié comment, Fred?
Ah mais non, mais c'est quand même un signe de normalisation, même si
on le savait, elle était en cours depuis quelques temps déjà.
Ah oui, bien sûr, monsieur. Ouais. Non, après il y a pas eu de mouvement contre ça, mais c'est une normalité qui n'est pas normale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui, moi, je n'ai jamais vu la sélection espagnole jouer à Bilbao, quoi.
Bon, de toute façon, groupe très ouvert pour l'Espagne, évidemment, très facile pour, enfin, très abordable
pour
l'Espagne.
Non, pas très facile.
Très abordable. Non, j'ai pas dit ça. Non, je me reprends.
C'est pas le pire tirage.
Très abordable pour l'Espagne, évidemment, d'autant plus que en étant troisième, tu peux être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, si tu veux, vous êtes en huitième de finale de l'Euro.
Mais
moi, je n'ai pas une confiance énorme dans cette Espagne.
Voilà, ça c'est intéressant.
Elle manque.
Que tu vois comme outsider de l'Euro.
Ah non.
Même pas.
Ah non.
Non, bah
non, il suffit de regarder la liste des 23. Enfin, il n'y a pour moi que deux joueurs qui sont dans le top 3 mondial.
Sergio Ramos
et Jordi Alba.
Ouais, c'est ça.
Et peut-être Carvajal parce qu'il revient bien. Peut-être que Carvajal.
Et devant, rappelle-nous un petit peu les meilleures forces devant.
Bah ouais, non, Busquets, il est plus dans le top 3 mondial.
Et devant, Fred.
Physiquement. Bah, Moreno.
Morata. Ouais, non. Ouais, c'est vrai. T'as raison.
Tu vois, il y a toujours un doute par rapport au buteur. Ouais. Costa, il reviendra pas.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Même pas outsider. Bon, voilà. Chapeau 2,5.
Ça fait l'Irlande qui gagne 1-0 sur un but de McLean à
Liga.
Bilbao,
ça veut dire quoi? On peut le faire rapidement avant de parler de la Liga avec Fred. Vos trois favoris. Si on fait deux chapeaux, trois favoris, trois outsiders.
C'est facile. Ouais.
Angleterre.
Ouais.
Oh non.
Ludo, vas-y.
Si, moi je mets Angleterre, Italie.
France.
Bah moi je peux donner mes favoris.
Vas-y.
Alors France,
Belgique France. Et après le reste.
Ah oui, Belgique, pardon.
France, Belgique très largement. Et après il y a un groupe d'outsiders. Je mets l'Italie, je mets l'Angleterre. Ouais, un groupe d'outsiders. Mais France et Belgique largement. Oh non. Je le mets dans le groupe d'outsiders l'Allemagne. Mais France et Belgique largement au-dessus des autres en termes de
sur le papier. La France, ça dépend vraiment
de 3-4 joueurs qui doivent revenir à leur niveau. Et après il va m'étonner.
Mais c'est hyper important. Dire Lucas Hernandez. C'est pas dans quelles conditions il va revenir.
Griezmann,
Coman, tu sais pas.
On s'en fout un peu. C'est Hernandez, Griezmann, Pogba.
Mais tu te rends pas compte un joueur comme important. Ça, comme c'est
important. Ouais, mais Ludo, il peut être remplacé. Il n'est pas aussi indispensable que Pogba ou qu'Hernandez.
Pogba, s'il est dans, enfin, ça fait quand même un moment qu'il est plus, tu vois.
On a 6 mois pour les faire, évidemment. La Liga, Fred, la victoire sous les trombes d'eau du Real Madrid à la veste de Buzyn. C'était pas le plus gros match du Real, qui confirme en tout cas sa bonne dynamique, puisque le Real a pris la tête avec 3 points d'avance, c'est ça?
3 points d'avance sur
le Barça qui joue demain.
Et 6 sur l'Atlético. Et demain, il y a Atlético Barça.
Ouais. Ah oui. Ça, on va en parler également du retour de Griezmann dans un instant avec toi. Alors, bon, Benzema n'a pas marqué, mais bon, ça roule. Zizou était content.
C'est le match. Vous savez, des matchs dans le Nord, les matchs au Pays Basque, sont toujours des matchs très compliqués pour le Real, pour toutes les grosses équipes. Alavés, c'est une petite pelouse, elle est assez étroite, il n'y avait pas d'espace. Il faisait un temps, mais un temps basque, donc il pleuvait beaucoup. Et c'est ce genre de match que le Real doit gagner s'il veut être champion. Ouais. Vraiment. C'était l'équipe très solide. Vraiment. Enfin, c'est, alors, ça pouvait pas être un match brillant de par le jeu proposé par l'adversaire de par les conditions météorologiques. Mais le Real Madrid est jusqu'ici le seul club à avoir réussi à marquer 2 buts à Alavés. sur son terrain. Voilà, c'était pas évident. En plus, il y a eu un penalty complètement idiot de Ramos là qui monte, sort le coude. Enfin, je veux dire, c'était évident que même si l'arbitre le voyait pas, que la VAR allait le voir. Donc,
mais Zidane fait une Ramos là. Ramos fait une Ramos, il marque.
Voilà.
Et derrière, il met un coup de coude aussi.
Et voilà, exactement. Et
voilà, un match à la Ramos.
Et il y a un but de Carvajal 7 minutes plus tard, mais on a vu un Real qui a des ressources, parce qu'après l'égalisation, voilà, ils ont essayé de tempérer, etc., parce que vraiment c'était difficile de jouer dans ces conditions. Bon, il y a l'égalisation, mais ils ont quand même trouvé les ressources pour l'emporter.
Dis-moi, Areola, titulaire.
Ouais, il était bien. Oui, en fait, pour une raison très simple, c'est que Zidane veut vraiment qu'Areola soit prêt à entrer à n'importe quel moment. Et quand je l'ai vu titulaire, je me suis dit, ah oui, tiens, quand Courtois a failli être expulsé l'autre jour contre le PSG, vous vous souvenez?
Oui, ouais, bien sûr. Oui, il a failli rentrer.
Il allait rentrer, il était en train
de s'échauffer. Il était déjà devant la ligne de touche. Ouais.
Voilà, donc finalement, avec la VAR, le rouge de Courtois a été annulé. Mais Zidane veut absolument que son deuxième gardien ne fasse pas que des matchs de Coupe du Roi ou des matchs sans enjeu, comme le match à Bruges, où il va sûrement jouer dans 15 jours. Donc, Areola va jouer beaucoup de matchs, justement parce que Zidane veut qu'il soit prêt à entrer à n'importe quel moment. Et il fait 2 arrêts décisifs à la 88e et la 89e minute. Parce que là, ça aurait été très difficile pour le Real d'égaliser à 2-2, vu les conditions. Et il y a eu 5 corners de suite pour Alavés. Et Areola fait ce qu'on demande à un gardien du Real. C'est-à-dire, tu as très peu d'interventions à faire durant une rencontre, mais il faut les faire. Et,
ce qu'ils n'aient pas forcément ça, au PSG, bien. D'ailleurs. Bref. Fred, je veux qu'on parle quand même du gros match demain 21h. Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, FC Barcelone, avec évidemment le retour d'Antoine Griezmann. Moi, la question que je te pose, c'est extrêmement simple. Bon, t'es pas devin, mais à quel accueil il doit s'attendre?
Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que ça va être horrible.
Horrible?
Ah oui. Horrible.
Carrément horrible.
Oui, horrible.
Ah, bien sûr, ouais. Et mérité même.
Ah non.
Ça, c'est autre chose.
Mais on fait pas le débat là-dessus.
Dis-moi.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a une sorte de walk of fame autour du stade. Mm-hmm, ouais. C'est-à-dire, il y a une sorte de plaque sur le sol avec
des joueurs qui ont marqué l'histoire.
Des joueurs, voilà, qui ont marqué l'histoire, etc. Et la plaque consacrée à Antoine Griezmann avait été profanée, entre guillemets.
Wow.
Où il y avait des ordures qui avaient été mises, il y avait des autocollants qui cachaient son nom, où c'était marqué on ne touche pas à l'Atlético. Ça, c'était déjà au mois de juillet, ça s'est passé 2-3 fois depuis le début de la saison. Donc, Antoine Griezmann a fait 5 années magnifiques.
Sa communication lui raconte.
Ouais.
Et même au Barça d'ailleurs, tu vois, il est perdant des deux côtés quasiment.
Ouais. Bien sûr. Non, mais ça c'est clair que c'est la communication, le fait déjà qu'il avait un peu joué avec les nerfs des gens, avec la fameuse décision, les gens l'ont dit, tout ça pour
ça, son erreur.
Et puis après partir un an après, alors en plus avec les négociations qui avaient démarré au mois de mars, enfin bref, tout ça fait que les supporters vont le siffler quand le speaker va annoncer son nom, qu'il y a de grandes chances que chaque fois qu'il touche la balle, qu'il soit hué. Sincèrement,
c'est terrible,
je trouve ça ridicule.
C'est terrible.
Je trouve ça ridicule parce que c'est quand même un joueur qui a été clé durant les 5 années où il était à l'Atlético. Si l'Atlético a été si haut pendant toutes ces années, c'est grâce à Antoine.
C'est une histoire d'amour, d'une histoire d'amour, Fred, qui tourne mal.
Vache.
Ouais. Donc au final, ça c'est obligé
une mauvaise rupture. Une mauvaise rupture.
C'est triste.
Voilà,
on est d'accord, mais c'est compréhensible.
Merci, Fred. C'est con. J'aurais aimé qu'on parle de Dembélé également, le pauvre Dembélé. Mais bon, on n'a pas le temps. 10 semaines, ça va être terrible. Alors, apparemment, il fait des efforts pourtant. Merci, Fred.
Adios.
Salut.
Merci, Ludo. Merci, Jonathan. Fin de l'After de l'élégance. On se retrouve la semaine prochaine, mais demain soir, l'After avec Gilbert, bien sûr, Daniel et Pierre Ducrot. Excellente soirée à tous.
Ciao, les gars.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.